Alors, salut Marc, bienvenue
Alors,
donc à ces entretiens. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de toi, dire te présenter?
ok. Bon, déjà, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous. Merci aussi pour l'invite. En quelques mots, donc, je m'appelle Marc Attallah, j'ai 45 ans et j'ai trois activités différentes qui me fatiguent beaucoup. J'en parlais avant. J'enseigne la littérature française à l'Université de Lausanne et je suis spécialisé dans les théories de la fiction et en particulier sur les fictions un peu parallèles comme ça, type la science-fiction, l'heroic fantasy, le jeu vidéo. Mais donc je travaille vraiment sur les théories de la fiction. Enfin, pourquoi est-ce qu'on lit des histoires, pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires, quelles sont les fonctions de ce genre de choses-là, à quoi ça sert. Voilà. Parallèlement à ça, je dirige un musée qui s'appelle La Maison d'ailleurs, à Yverdon-les-Bains, qui est un musée dédié à la science-fiction, mais plus généralement à la culture populaire. Qui est un musée qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui propose une expo par année sur une thématique de société en général, qui est traitée par le biais de la culture populaire, que ce soit au niveau artistique ou mais au niveau du patrimoine. Et puis j'ai fondé un festival en 2015 qui s'appelle Numeric Games, qui est un festival dédié, comme son nom l'indique, pas à la culture numérique et pas aux jeux vidéo. C'est un festival autour de la créativité numérique. Et donc, c'est un festival pluridisciplinaire qui touche autant les arts de la scène, les arts du spectacle, les concerts, mais aussi le jeu vidéo et autres ateliers, haute école, etc. Donc, c'est une dimension assez multiple pour toucher des publics relativement différents, que ce soit des parents, des enseignants, des jeunes, qui soient des jeunes clubbers ou des jeunes en phase de découverte. Non pas que quand on fait du clubbing, on ne découvre pas, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, qui est un peu l'idée de pouvoir mélanger des publics et de reconnecter des publics autour du numérique qu'il y a pour disons, image de déconnecter les gens. Donc voilà, ça c'est un peu mon parcours professionnel. Et puis à part ça, j'ai deux enfants.
Petit détail. Et
Petit.
puis, bah, comment est-ce que tu as vécu ces derniers mois? Alors, on a traversé beaucoup de choses, enfin, plutôt en lien avec tout ce qui s'est fait avec l'IA depuis le 30 novembre dernier. Alors, pas que l'IA est apparue du jour au lendemain, mais on en parle beaucoup depuis le 30 novembre et l'apparition de ChatGPT. Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Est-ce que tu étais plutôt optimiste, pessimiste, quelque part entre les deux, fasciné, apeuré?
Je suis plus fasciné par les réactions des gens que par les découvertes elles-mêmes ou que. Non, enfin, disons, quand on travaille dans le domaine de la science-fiction, on a l'habitude d'être en contact avec les découvertes, enfin les découvertes ou les avancées technologiques ou un imaginaire de la science et des technologies qu'on peut nous avoir en tant que public non spécialisé. Je l'ai autant vu dans le Covid, par exemple, face à l'imaginaire de la pandémie, que vis-à-vis de ChatGPT, qui à mon avis était un peu un effet de mode, c'est-à-dire que déjà ça existe depuis longtemps ces modèles-là, c'est pas non plus, ça vient pas d'arriver. C'est directement été en lien avec la question de l'enseignement, parce que je pense qu'effectivement, ça remet en cause non pas l'enseignement, mais une certaine méthode d'enseignement de certaines choses. Voilà, l'idée même de produire un texte, par exemple, argumenté, en sachant qu'environ, je pense, 95% des élèves qui sortent du collège ou du gymnase ne vont jamais faire ça dans leur vie, en fait. Pour moi, ça correspond à peu près à la machine à calculer, quoi. La plupart d'entre nous n'a pas besoin de savoir calculer un exponentiel de tête, c'est même mieux. Et c'est venu remettre en cause un système. Et je pense que la réaction que j'ai vue moi dans les médias, etc., la réaction des gens, c'était plutôt, tiens, cette technologie ou ce débat autour de la technologie vient remettre en cause un système qui a, comme tout système, beaucoup d'avantages puisqu'on le connaît, mais des désavantages, c'est qu'il est souvent un peu figé. Mais après, je me suis aussi rendu compte que ce qui était plus intéressant que ChatGPT, en tout cas ce qui moi m'intéressait plus, c'était l'imaginaire qu'on avait de l'IA, qui est un imaginaire en fait extrêmement has-been. C'est-à-dire cette idée que l'IA sera plus intelligente que nous, qu'il faut faire attention, qu'elle pourrait commencer à contrôler des aspects de la société, ou, bon, bref, n'importe quoi, c'est un imaginaire qui existe depuis très très longtemps. Et qu'on va calquer sur l'IA, souvent parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Parce qu'en fait, quand on sait ce que c'est un peu, c'est moins drôle en fait. C'est un peu comme un gâteau au fromage qui est resté trop longtemps au four, quoi. Donc j'ai plutôt été intéressé par ça. C'est comment est-ce qu'on pense la technologie. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, enfin quand j'avais mon doctorat, je discutais beaucoup avec un prof qui me disait, en fait, le grand impensé du XXe siècle, c'est la technologie. Enfin, c'est tout le temps là, mais c'est peu pensé. Alors, évidemment, il y a des gens qui le pensent, qui la pensent, hein, philosophes des sciences, des scientifiques, en tout cas une partie. d'entre eux. Mais c'est vrai qu'au niveau du grand public, on l'utilise, on a une approche assez instrumentale de la technologie. Voilà, j'ai un téléphone, ça me permet de pouvoir faire des... C'est un truc, j'ai une carte bancaire, ça me permet de pouvoir retirer de l'argent. Puis on remarque quand ça ne marche pas, si je retire de l'argent puis que l'argent ne sort pas, j'ai un problème. Mais on ne va pas se demander, on ne va pas chercher à réfléchir plus loin pour des raisons assez évidentes. On ne peut pas faire ça pour tout non plus. Et donc j'ai plutôt vu ça, j'ai plutôt vu une sorte de mécompréhension de l'IA et donc une projection sur l'IA de scénarios, de fantasmes, alors de rêves parfois, de cauchemars d'autrefois. Et c'est plutôt cette espèce de... Bonjour. C'est plutôt cette espèce de complexité du discours autour de l'IA qui m'a fasciné plus que l'IA en tant que telle. Je ne me sens pas spécialement ni... Enfin, ce qui me fait rêver ou ce qui peut me faire cauchemarder, c'est plutôt ce que les êtres humains vont faire avec l'IA plus que l'IA elle-même. Voilà.
Super. Tu parlais justement de cette idée, comment est-ce qu'on pense la technologie. Puis je voulais commencer aujourd'hui un peu en mettant le doigt sur la science-fiction, justement, qui pense depuis de nombreuses années la technologie, en tout cas certaines formes de technologie. Et d'après toi, comment expliquer que finalement c'est la science-fiction, en tout cas certains auteurs de science-fiction, qui ont posé les grandes questions qui sont encore débattues aujourd'hui? Je pense par exemple à Asimov et ses lois de la robotique, qui sont encore, même si elles ont évolué, qui sont encore au centre de la discussion aujourd'hui. Je pense aussi à Orwell, qui a pensé à tout ce qui est ce qu'on nomme aujourd'hui le capitalisme de surveillance, à différents niveau. Enfin, c'est quand même un peu étonnant, non?
Alors, je peux comprendre que ça soit étonnant. Moi, je suis un peu mal pris, parce que ça fait 25 ans que je travaille là-dessus, donc je suis moins étonné. Mais peut-être que, pour répondre à ta question, je dirais la chose suivante. On est tous sensibles à ce qu'il y a devant nous, mais aussi à ce que les prospectivistes appellent les signaux faibles. C'est-à-dire, en fait, on sent des choses dans les sociétés parce qu'on a cette sensibilité normalement à peu près au monde, où on voit des tendances. Le marketing d'air fonctionne là-dessus. C'est bien parce qu'on voit des tendances, qu'on est capable de pouvoir l'utiliser, l'exploiter, le vendre, etc. Puis que ça rencontre étrangement les gens. Parce que si moi j'essaie de lancer une marque de vêtements, c'est pas sûr que ça rencontre les gens, mais il y a des gens, ils arrivent à sentir ce genre de choses-là. Et je pense que les écrivains ont toujours à peu près fait ça. C'est-à-dire que les écrivains, en tout cas dans le monde moderne, sont des gens qui, en tout cas, on a construit une image de la littérature qui capte des modifications, micro-modifications dans les sociétés, et qui vont chercher à les mettre en récit, parce que raconter une modification, c'est déjà lui donner du sens. C'est souvent pour ça qu'on projette des récits sur les IA, parce que ça leur donne beaucoup plus de sens que ce qu'elles sont en tant qu'outils. En fait. Maintenant, la spécificité de la science-fiction, et qui la rend peut-être effectivement un peu particulière par rapport à d'autres formes artistiques, c'est qu'elle s'est concentrée sur cet impensé. C'est-à-dire, en fait, ce qui intéresse les auteurs de science-fiction, c'est comment la science et les technologies fournissent des images. Parce que c'est ça qu'on fait quand on lit un roman de science-fiction. L'IA, mais on en parlera peut-être plus tard, mais l'IA dans un roman de science-fiction, ce n'est pas l'IA réelle. Mais l'IA réelle fournit une image intéressante aux auteurs de science-fiction, comme le robot, comme le super-ordinateur, comme le vaisseau spatial ou que sais-je. Et cette image, elle est traitée dans les récits. Et c'est là où il y a souvent une confusion dans la science-fiction, c'est que si elle est utilisée, ce n'est pas du tout pour parler de l'IA, des vaisseaux spatiaux, des robots ou que sais-je, mais c'est pour parler de l'homme. C'est-à-dire que c'est une image qui vient en interaction avec l'homme, qui nous renseigne sur l'homme. Mais comme la plupart des romanciers nous renseignent sur l'amour, sur les pathologies humaines, sur la tristesse, la mort, enfin, la souffrance. Enfin, toutes ces choses qui sont difficiles à appréhender en soi, où chacun a son point de vue là-dessus, mais qui n'est évidemment que son point de vue. Donc le fait d'élargir un peu son point de vue, c'est plutôt bon signe. Et comme on a un point de vue relativement unique sur la science et la technologie, la plupart d'entre nous, bah évidemment, le fait d'avoir des auteurs qui vont élargir, qui vont se dire, tiens, si j'ai un téléphone entre les mains, qu'est-ce que ça produit sur moi? C'est une question qu'on, la plupart d'entre nous, enfin, en tout cas moi, je ne me suis pas vraiment posée. Je ne me suis pas dit qu'est-ce que ça changeait dans ma condition humaine de passer, je ne sais pas, la moyenne occidentale, c'est 6 heures par jour sur un smartphone. Je ne me suis pas posé la question. Si je me dis qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 6 heures, je commence à un peu avoir peur, parce que je me rends compte que je ne me rappelle pas, vraiment. Donc je dis, tiens, c'est marrant, les 6 heures qui ont disparu comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu pendant ces 6 heures, je ne me rappelle pas non plus très bien. Après, si j'ai fait une heure de téléphone, je me rappelle. Mais je me suis pas, c'est pas une question que je me pose. Voilà. Donc en fait, il y a des types qui se sont dit, on va poser cette question. On va poser cette question, et pour poser la question de ce que je vis pendant 6 heures sur un téléphone portable, c'est soit je peux mettre en littérature, je mets un régime réaliste et puis je vois quelqu'un qui est en train de s'introspecter sur qu'est-ce qu'il est en train de se passer, voilà, bon. Ou je trouve des astuces pour amplifier le questionnement. Et donc, je vais dire, bah, plutôt que d'avoir un téléphone entre les mains, je vais greffer une puce dans mon cerveau, par exemple. C'est beaucoup plus rapide pour appeler les gens. Et puis, ça a toujours de la batterie. Ça peut me réveiller la nuit, par contre, mais sinon, ça a toujours de la batterie. Ou je peux décider d'inventer une technologie qui n'existe pas, mais dans laquelle je reconnais évidemment mon téléphone portable, enfin plus ou moins évidemment. Donc je pense que la science-fiction, elle pense la technologie pas tellement. La science-fiction, elle utilise les images générées par le monde de la science et de la technologie, qui est omniprésent, ce monde, mais pour les mettre en récit avec ce que c'est qu'être un humain. Qu'est-ce que ces choses-là nous disent de l'être humain? Et c'est cette question qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Et c'est à mon avis pour cette raison que la science-fiction, on a tendance à pas la lire comme une littérature du présent, ce qu'elle est pourtant, parce que si elle était une littérature du futur, on la comprendrait pas, en fait. Là, il y a la série Fondation là, qui vient de sortir, qui est adaptée du roman d'Asimov. Ça se passe en l'an 3000 et quelques. En fait, normalement, on ne pourrait pas comprendre ce qui se passe. En plus de 1000 ans d'évolution, il y aurait eu peut-être 2-3 modifications. Et on comprend tout. Donc, c'est bien une illusion. Voilà, ça nous parle du présent. Mais alors, on a tendance à... Soit ça nous parle de la technologie. Donc, on va utiliser la science-fiction. On va l'instrumentaliser pour nous dire comment elle nous parle de la technologie. Ou alors, on va penser qu'elle nous parle de la prospective. C'est-à-dire qu'elle anticipe. Alors, si on prend Orwell, par exemple, c'est intéressant. C'est un exemple que j'aime bien parce que j'ai été super sollicité pendant le Covid et j'en pouvais plus. Et je leur disais, mais en fait, le télécran, on s'en fout complètement dans Orwell. En fait, ils s'en fichent complètement du télécran. C'est pas important, en fait. D'ailleurs, ce truc, c'est juste que dans les foyers américains et anglo-saxons, on commence à avoir des télévisions et ils se disent, comment on va faire pour être sûr que les gens, ils soient dociles dans un parti comme Big Brother, qu'ils n'aient pas ce qu'il appelle le crime de la pensée, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas de manière subversive, on les contrôle tout le temps. Donc l'écran va dans l'autre sens, c'est l'écran qui vous regarde. Et donc forcément, c'est un peu l'idée du panoptique de Bentham, hein, si l'écran me regarde, quelle que soit la personne qui est derrière, je ferai moins le con que si on ne me regarde pas. Voilà, c'est très humain, c'est basique. Et il utilise donc la technologie en vigueur de son temps qui est en train d'arriver pour se dire c'est super. Parce que si on inverse le sens de l'image, c'est-à-dire que si nous on devient les spectateurs, on devient les acteurs, alors on ne va pas faire n'importe quoi. Mais son vrai but, ce n'est pas de parler de la technologie. Son vrai but, c'est de trouver la manière dont un système pourrait contrôler de manière complète la pensée des gens. Et ce système, et c'est le cœur même de 84, qui fait que Orwell refusait qu'on écrive son roman 1984. En fait, Orwell voulait qu'on écrive 1984 en toutes lettres. Il ne voulait pas du tout qu'il y ait des chiffres. C'est le langage. Et c'est pour ça que la novlangue, qui est le seul appendice du livre, c'est cette réduction du langage. Il dit, si on réduit le langage, on diminue la posture subversive. Mais pour être sûr encore qu'on la diminue, on contrôle les gens chez eux, donc on casse privé-public. Parce qu'en cassant privé-public, j'empêche la petite capsule où je peux quand même développer mon langage chez moi, quoi. Je peux être très docile au travail et chez moi me plaindre auprès de ma femme ou de mon mari que je me fais avoir. Mais si chez moi j'ai seulement une télévision... je ne me plains plus. Voilà. Et donc, je ne peux plus me... Donc c'est... Vous voyez, la technologie, elle n'est pas importante. Elle permet de renforcer la surveillance des gens pour éviter qu'ils développent un langage complexe. Et c'est pour ça que Winston a chez lui une petite alcôve où il peut raconter sa vie. Puis c'est le moment où il commence à raconter sa vie qu'il prend conscience. Et ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque de Orwell, il y a Winston Churchill, cette fois-ci, mais ce n'est pas pour rien que le personnage s'appelle Winston Smith, qui, en fait, valorise une réforme du langage, qui s'appelle le Basic English, qui est devenu ensuite le langage qu'on appelle l'anglais commercial. Et Orwell est d'abord pour cette réforme, en disant on va pouvoir enfin tous se comprendre, ça évitera les problématiques de la guerre, et il se rend compte que ça ne va pas du tout, ça va réduire la pensée. Donc, en fait, c'est un roman qui parle du langage, et qui parle du fait que le langage est le seul outil qu'on a à disposition pour penser la nuance et la complexité, mais que finalement, un parti politique aurait tout intérêt à réduire le langage, parce que ça veut dire que l'adhésion des citoyens serait beaucoup plus forte, puisqu'ils n'auraient même plus les outils pour être dans la rébellion. Donc la science-fiction, pour moi, c'est là où elle est forte, c'est qu'elle, quand elle arrive à nous parler de nous, et profondément de nous, de notre monde à nous, mais en utilisant des images technologiques, c'est à la fois super, parce qu'on peut réfléchir autrement à la technologie, mais c'est en même temps terrifiant, parce qu'on a l'impression qu'on parle de technologie, alors qu'en fait, non. Bon, enfin,
n'hésitez pas.
Pour répondre à ta question.
Ouais,
tiens, je te donne le micro, mais si ça ne sert à rien, on presse.
Donc on parle de mise en récit, de langage, on a parlé de l'IA. Une question qui peut se poser, en fait, c'est que IA, qui pourrait être intelligence alien, donc en fait une intelligence non humaine, est capable de créer du récit. Alors si on prend l'histoire de l'humanité, c'est ce dont parle Orwell, hein, c'est le pouvoir du verbe, quelque part, sur l'humain, et si on veut faire partir en chantant 15 000 personnes pour qu'ils sautent sur un champ de mine, on leur raconte une histoire et la chose se passe, elle s'est passée. Donc on a comme ça un pouvoir du récit chez l'humain qui est impressionnant. Alors le fait que tout d'un coup ce récit soit créé non plus par des humains, mais puisse être créé par autre chose, quelque chose de non humain, est-ce que ça ne va pas avoir un impact? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer là une science-fiction un peu... perturbatrice, donc imaginez que demain, les récits qui vont modeler notre société, qui vont la porter, vont peut-être être des récits d'origine alien.
Bon, je ne sais pas trop ce qui se passera demain, tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire. On peut tout à fait imaginer paramétrer, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'une IA, ça se paramètre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même quelqu'un qui va lui dire « écris un récit à la première personne ». La force d'un récit, d'une fiction, on va dire, peut-être pour rester un peu le champ, elle est effectivement un peu ambiguë. C'est-à-dire qu'une fiction, on l'a bien vu dans le cas de la propagande, c'est une manière aussi, ce que les littéraires appellent les romans à thèse, c'est une manière de pouvoir, en fait, faire passer des idées plus facilement, ou avec moins de résistance, disons, de la part du lecteur, si c'est un récit que si c'est un pamphlet politique, par exemple. Donc il y a un peu ce risque toujours de la fiction, c'est bien pour ça que Platon l'éjecte de la cité d'ailleurs. Enfin c'est bien, c'est pour ça qu'il a un peu peur de la fiction. C'est celle qui influencerait les gens. Et en tout cas pas dans le bon sens, parce que Platon accepte ceux qui chantent les louanges de la cité quand même. Hein. Ceux ils ont le droit de rester, hein. C'est les autres qui doivent partir. Donc évidemment ce qui nous fait peur avec le récit c'est ça, c'est son danger, c'est qu'il peut être de l'ordre de la conviction. Parce que lorsqu'on lit une fiction, on est immergé. Et cette immersion, elle fait qu'on y croit. Sinon, ça ne marcherait jamais. Enfin, il n'y a aucune raison de se projeter dans un monde de mots. C'est bien parce qu'on y croit et on y adhère que, soudainement, on peut donner vie à ce monde-là. Donc, il y a un peu une sorte de possibilité de faire passer quelque chose. Mais ça, il n'y a pas besoin de l'IA pour ça. Il y a déjà des récits à thèse. Hein. Il y en a même plein. Et ils ne sont pas tous lancés par des spécialistes en marketing. Puis après, il y a l'autre fiction. Qui est celle qu'on a souvent appelée problématique, c'est-à-dire celle qui vient en fait questionner des évidences. Hein, c'est Umberto Eco, il fait une sorte de truc assez intéressant, il oppose des fictions populaires qui ne remettent pas en cause, on va dire en gros, nos catégories. Ouais, bah, les gentils, c'est ça, ils gagnent contre les méchants, machin. Et puis les fictions qu'il appelle problématiques, c'est-à-dire celles qui remettent en cause les catégories. Donc en fait, qui sont un peu plus embêtantes parce qu'on ne nous donne pas de solution. On dit juste ça ne marche pas, en gros. Et puis on laisse le lecteur se dépatouiller. Alors cette opposition, elle existe depuis longtemps. C'est qu'en fait, elle n'est pas nouvelle. Et l'IA, je ne vois pas ce que l'IA changerait. Enfin, l'IA au sens de l'intelligence alien, la question, ça va être une question vraiment intéressante. C'est comment est-ce qu'une IA va pouvoir être en mesure de produire un récit qui serait une fiction problématique? Parce que produire une fiction populaire, c'est-à-dire en fait, qui véhicule des idées, enfin, c'est compliqué parce qu'il faut quand même avoir un peu le truc. Mais il y en a déjà plein. Par contre, celle qui va être capable d'interroger nos valeurs, c'est-à-dire dans les paramétrages de l'IA, il va falloir mettre beaucoup de choses. Hein, parce qu'il va falloir lui mettre pas seulement... Déjà, il faut qu'elle construise un récit. Alors ça peut se faire un peu, mais bon, ça ne peut pas très long. Mais on peut imaginer trouver... Il y a quand même des principes de construction. Ils seront sûrement d'ailleurs basés sur des principes de construction déjà existants. Donc déjà là, ce n'est pas problématique. Puis après, il faudra la paramétrer sur là on veut qu'elle soit problématique, par exemple. Puis d'un coup, on se rend compte que derrière l'IA, il y a quand même un facteur humain qui va devoir paramétrer énormément de choses. C'est la même chose avec ChatGPT aujourd'hui. Il faut quand même bien paramétrer si on veut un truc intéressant. Et c'est juste que cet humain aura de plus en plus peut-être de force. On pourrait très bien imaginer qu'un romancier puisse... mandater des IA, ça va beaucoup plus vite accessoirement, pour créer des romans pas très intéressants mais qui peuvent se vendre. Mais c'est quand même la figure du romancier qui va primer. On voit ça avec les artistes. Dans les arts picturaux aujourd'hui, on voit des images générées par l'IA qui sont assez incroyables, et très belles d'ailleurs, qui sont quand même paramétrées. Mais ce qui est beau, c'est les artistes qui vont s'emparer de ces images pour en faire autre chose. Parce que cette sensibilité à l'humain qui fonde les arts, en fait, la question c'est peut-on la paramétrer ? Peut-on paramétrer l'empathie, par exemple ? Si vous n'avez pas d'empathie, ça va être compliqué de raconter un récit intéressant, disons. Vous pouvez, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Donc maintenant, c'est comment vous allez faire pour paramétrer l'empathie pour que l'IA puisse faire un récit auquel on croit. Parce que de nouveau, moi, je peux vous écrire une nouvelle maintenant, et ça sera assez mauvais. Et vous n'allez pas y croire, vous allez lire deux pages. Ouais, bon, okay. Essayez d'écrire un dialogue entre des personnages pour que ça soit vraisemblable. On dit, ah tiens, c'est pas mal. Souvent, on est assez mauvais, alors qu'on est quand même des êtres déjà empathiques. On a un peu l'habitude de discuter. Enfin, on a une compétence. Mais de là, la retranscrire, c'est un autre problème. Alors, comment vous allez paramétrer l'IA pour qu'elle soit capable de produire un récit auquel on croit ? Je crois que c'est plutôt ça la vraie question. Et je ne suis pas convaincu qu'on y est proche. Qu'elle puisse produire un texte de recherche, on va chercher des informations qui existent sur le web, qu'elle les compile, qu'elle ait des espèces de structures logiques, etc. Ça va. C'est ce qu'on apprend aux jeunes aujourd'hui. Moi, j'aimerais que les profs... enfin, j'aimerais parce que je suis enseignant aussi. On devrait apprendre aux élèves de surtout pas faire ça. D'être le plus créatif possible. On vous donne trois infos, comment vous pouvez être créatif avec ça ? Parce que ça, c'est un truc qui est compliqué à paramétrer. Mais d'écrire un texte qui est bon, enfin, qui est structuré, thèse, antithèse, synthèse, c'est pas très méga compliqué. Enfin, ça fait des trucs à 500 ans qu'on fait ça. Personne ne s'est vraiment cassé les dents. Donc on y arrive. Mais comment être créatif ? Ça, c'est un autre problème. Et je pense que c'est ça notre grande force sur ChatGPT, c'est que pour être créatif, il n'y a pas un type qui vous programme, en fait. On peut vous inciter. On peut imaginer que vous allez y arriver. Ce n'est pas sûr que vous allez y arriver quand même, mais on peut imaginer. Mais ce n'est pas paramétrable. Il y a plus de chances que la créativité se nourrisse d'aller se balader dans la nature, d'être attentif au monde, de casser l'écart conditionnaire, ce qu'on voit beaucoup depuis le 19e siècle. Évidemment, si vous êtes intéressé par les maths, la physique, la littérature et la philo, vous serez sûrement plus créatif que si vous êtes que des maths. Ça, c'est sûr. Donc j'ai l'impression que ça, ChatGPT n'est pas bon, ou les IA ne vont pas être bonnes à ça, sauf si elles sont paramétrées, mais ce qui suppose qu'on peut les paramétrer. Et ça veut dire qu'on est capable de paramétrer l'empathie. Et puis ça, je n'ai pas l'impression qu'on est capable de la paramétrer. On peut dire quand elle n'est pas là, ça on arrive un peu. Quand il y a des problèmes d'empathie, ah c'est marrant, tu n'as pas d'empathie. Mais de paramétrer l'empathie...
J'ai essayé de jouer l'avocat du diable là, pour prendre le contre-pied de ce que tu dis. Pas que je sois en désaccord, mais peut-être plus pour l'exercice qu'autre chose. On parle aussi beaucoup des théories d'émergence, notamment avec le deep learning. Voilà, et puis on a vu ces outils comme ChatGPT, à qui on a donné des instructions relativement basiques, enfin, qui sont très complexes, mais sur lesquelles l'IA devient relativement autonome pour développer des compréhensions du langage qui dépassent notre entendement. On a vu aussi, par exemple, d'abord Kasparov qui a été battu par Deep Blue. Ensuite, on a vu Lee Sedang, je crois qu'il s'appelle, qui a été battu par AlphaGo au jeu du Go. Et puis, si je me reprends dans ce deuxième exemple, c'est dans une des parties, je crois que c'était au 17e ou 37e coup, où l'intelligence artificielle a fait un coup qui n'avait jamais été conçu comme possible, imaginé, et après coup, qu'on a vu comme une erreur, et ensuite qu'on a vu comme une grande preuve de créativité, parce que ça a révolutionné le jeu du Go après des millénaires. Oui. Donc, ma question, est-ce que, avec ces exemples, alors j'entends bien que c'est des gens qui paramètrent à la base, mais AlphaGo, on ne l'a pas vraiment paramétré, si ce n'est on lui a dit « apprends à jouer contre toi », et puis AlphaGo a appris à des nouvelles méthodes, plus créatives. Alors, est-ce que la créativité au jeu du Go, c'est forcément la même chose que dans une œuvre littéraire ? Je ne sais pas. Mais est-ce que pour autant, ça exclut l'émergence de choses comme peut-être l'empathie ou comme la créativité ?
Je crois déjà que la différence, une des différences, c'est intéressant que tu parles des jeux comme les échecs ou le jeu de Go, c'est que dans les théories du jeu, la fonction principale et primordiale du jeu, en tout cas c'est ce que nous dit déjà Schiller au XVIIIe siècle, c'est d'apprendre à être libre dans un système de règles contraignantes. Et donc le jeu a cette espèce de capacité qu'on a un peu malheureusement au XIXe siècle réduit à l'enfant, de choisir librement un système de contraintes, qui sont les règles du jeu. C'est pour ça que les tricheurs sont souvent mal vus. Ils trichent d'abord avec les autres joueurs, pas d'abord avec le jeu. et que dans cette acceptation de contraintes, on apprend, sans le risque du réel, parce que le risque du réel, c'est que si vous faites un truc, la conséquence, elle existe, quoi. Enfin, ce qui n'est pas sérieux dans le jeu, c'est que si je meurs dans un jeu, je ne suis pas mort dans le monde réel. Tandis que si je fais un truc dangereux dans le monde réel, bah, faut éviter que j'y passe, quoi. Et donc, dans ce système normatif et contraignant, je peux développer des stratégies pour apprendre à gagner contre mes camarades, contre le jeu, contre moi, enfin bon, machin. Mais c'est ce système de contraintes qui pilote les coups possibles, en sachant qu'évidemment, le système de règles ne va pas faire... Enfin, la plupart des gens qui jouent aux échecs ne connaissent pas tous les coups possibles, puisque ce n'est pas d'abord un coup, c'est un coup dans une situation donnée, dont la probabilité d'émergence fréquente, elle est quand même assez rare, à part au tout début où les pièces sont les mêmes. Mais très rapidement, ça devient quelque chose qui est ingérable. Et c'est bien le problème qu'on a dans le jeu des échecs pour les humains, c'est que c'est combien de coups d'avance on peut prévoir. Alors on sait que les grands maîtres arrivent à prévoir plusieurs tables différentes, mais ils ont peut-être 10, 15, 20 coups. Une intelligence artificielle peut en prévoir 100, 150, 200, parce que ça lui prend tellement peu de temps de faire ça, mais parce qu'elle sait piloter le système de règles. Alors que l'esprit humain a une sorte de limite à ça. Et c'est pour ça que c'est marrant que tu parles du jeu, parce que le jeu est basé sur des règles. Alors, c'est pas parce qu'on a découvert un coup particulier que ça veut dire que l'IA était contre les règles. Ça veut juste dire que l'esprit humain n'a pas épuisé, ce qui est plutôt rassurant, n'a pas épuisé tous les coups possibles au jeu de Go ou au jeu d'échecs, par exemple. Ou toutes les anticipations possibles. C'est plus embêtant avec le récit, parce que le récit obéit à des règles un peu différentes. Déjà, il n'y a pas de règles de structuration. C'est-à-dire qu'en fait, à part les règles grammaticales de construction des phrases, et encore, parce qu'elles peuvent être encore bousillées, hein, mais à part celles-là, disons, par quoi vous commencez, le nombre de paramètres, il n'y a pas un système de règles, à part grammaticales, il n'y a pas un système de règles qui enserre l'activité d'écriture, par exemple. Mais c'est la même chose au cinéma. Donc ça veut dire que quelle va être la capacité pour une IA de faire des coups d'avance? Tout ce qu'elle peut faire, c'est créer plein de récits. Et puis statistiquement, parmi tous ces récits, il y en a quelques-uns qui seront intéressants, d'autres pas. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas parce qu'elle se balade dans un système de règles. Et donc, il va falloir renforcer ce système de règles si on veut que les récits deviennent intéressants. Et c'est là où on va devoir de plus en plus la paramétrer, à mon avis. Ce qui n'est pas le cas aux échecs. Aux échecs, le système de données, le système de règles, il est borné, en fait. Dans la pratique artistique, ou enfin, les pratiques humaines en général, ce n'est pas borné. Alors, on a chaque fois l'impression que c'est peut-être un peu borné, mais en fait, on se rend compte qu'on a chaque année des nouveaux récits qui viennent, puis de nouvelles façons de construire, puis de nouvelles manières de traiter une thématique, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir paramétrer si on veut qu'elle puisse se balader là-dedans. Parce que le problème, c'est que pour une IA, c'est tout autant probable que... si deux personnages se parlent, un humain va très vite voir si c'est vraisemblable ou pas, en fonction de sa propre expérience du réel. Bah, comment vous allez paramétrer l'IA pour qu'elle décide que cette interaction n'est pas probable et celle-là, elle l'est ? Bah, va bien falloir la nourrir, quoi. Et donc, au bout d'un moment, on va passer son temps à nourrir l'IA pour qu'elle puisse être vraisemblable. Ce que l'humain fait quasiment instantanément. Bon, peut-être pas les enfants, mais après, on arrive assez facilement à faire ça. Pas sous forme d'un roman, mais... Donc, je ne suis pas convaincu... Enfin, je suis convaincu que dans des systèmes logiques, l'IA est hyper plus performante que nous, ce qui est donc très rassurant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres de logique. C'est plutôt bien. Enfin, en tout cas, pas que des êtres de logique. C'est rassurant de ne pas nous réduire à ça. Mais c'est aussi pour ça qu'on utilise l'IA quasiment que dans des systèmes logiques. Parce que celle-là, elle est faite pour ça. Enfin, elle a une performance qu'on ne peut pas atteindre. Mais comme plein d'autres outils qu'on utilise, qui sont 10 fois plus performants que nous. Et puis par rapport à la conscience émergente, moi j'avais pas mal bossé avec les PFL, avec les départements là-bas de robotique bio-inspirée, qui montraient que le problème dans les systèmes émergents, c'est que déjà on parle bien de systèmes mathématiques. C'est-à-dire qu'en fait l'émergence, ce n'est pas l'émergence de la conscience. C'est que nous, on interprète ce qui se passe comme une émergence de conscience. Mais à la base, c'est des optimisations de fonctions. Hein. C'est en fait, il y a une célèbre expérience, vous pouvez regarder ça se trouve assez facilement sur le net, qui s'appelle Prédateur Proie, qui est d'ailleurs inspiré un roman à Michael Crichton qui s'appelle La Proie. Et cette expérience qui a été menée par les PFL il y a quelques années, elle programmait un robot qui était un prédateur et un autre robot qui était la proie. Et le prédateur allait 2 fois moins vite que la proie, donc il se déplaçait moins vite, mais il avait des capteurs plus grands. La proie avait moins de capteurs, mais se déplaçait plus vite. Et donc il programmait de telle manière que le prédateur devait aller capter la proie, hein, et la proie devait échapper au prédateur. Mais ça, c'est ce que nous, comme ça, quand on l'a traduit. Mais à la base, l'expérience elle-même, le programme qui était basé sur le développement de conscience artificielle, c'est des fonctions mathématiques, d'optimisation d'espace, de déplacement, etc. Et c'est ça qu'on optimise. Et c'est plus on... Et en gros, la conscience artificielle, c'est de faire en sorte que le programme s'auto-optimise. Mais il reste quand même bordé par la programmation de départ. C'est pas la même chose qu'une conscience émergente qui... où d'un coup, on pourrait être... se départir d'une programmation de départ. Je pense par exemple à une figure que tous les littéraires connaissent très bien, pas que les littéraires, qu'est la métaphore. La métaphore, elle, c'est compliqué quand elle apparaît. Le premier type qui a dit l'amour, c'est une flamme, enfin c'est Ronsard. C'est compliqué d'expliquer d'où ça vient en fait ce truc. Puisqu'il n'y avait pas cette métaphore avant, on ne parlait pas de tout ça comme ça. Donc, c'est pour moi ça, c'est de la création. Mais il n'y a rien qui permettait de mettre en lien ce sujet et ce prédicat. Aucun, rien. Mais aujourd'hui, ça nous paraît complètement évident et tout ça. Mais alors que dans l'expérience prédateur proie, sur des phénomènes émergents, bah, on optimise des fonctions mathématiques. Et donc, c'est de la statistique. Et c'est pour ça que ça marche avec le Go et que ça marche avec le jeu d'échecs. Parce que c'est d'abord des questions statistiques. Quelle est la probabilité que telle table arrive, etc., etc., depuis cette configuration-là? Bah, en roman, essayez de vous mettre devant une plage blanche, quelle est la probabilité qu'à la fin, vous ayez la recherche de Proust? C'est pas tout à fait le même type de... C'est ce qui nous échappe en permanence dans la création, en fait. Comment on va paramétrer... On est quand même dans des systèmes informatiques, on est quand même dans des systèmes qui basent sur un langage, qui est le langage informatique, qui joue pas sur la polysémie, qui joue pas sur les impertinences, qui reste cohérent avec lui-même. Donc le langage lui-même empêche quasiment ce que notre langage permet, tout comme notre langage à nous, nous embête beaucoup dans les situations purement logiques, parce qu'on passe son temps à merder un peu, comme ça. Voilà.
Direction,
selon mais... moi, donc, évidemment. Parce que...
Ouais.
Alors, je te passe le micro, n'hésitez pas à passer au fond.
Voilà, je vais peut-être pas utiliser les bons termes, mais je me posais la question, en fait, si... à force d'être confronté à des histoires humaines, l'IA pourrait pas, alors ce serait pas le bon terme ici, mais avoir l'idée de, du coup, je sais pas, en ayant été confronté au récit de 2001, l'Odyssée de l'espace, si tout à coup l'IA pourrait par lui-même se dire, ah bah, voilà une idée qu'elle est bonne.
J'en sais rien. Nous, on arrive à faire ça, mais la plupart d'entre nous pas, hein, quand même. Mais potentiellement, on arrive à faire ça. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement, avec un nombre de paramètres assez difficile à mesurer quand même, voir 2001 et 40 ans plus tard, faire un film qui est un hommage à 2001 qui s'appelle Interstellar. Bien que la plupart des gens qui ont vu 2001 ne voient pas qu'Interstellar est une relecture de 2001. Bon. Comme quoi, même si ça paraît faisable, ça ne veut pas dire que ça l'est pour l'humain. Dans ce que vous dites, ce que je trouve intéressant... C'est, et je me rappelle des textes que j'avais lus des années 40, fin des années 40, début 50, de cette science qu'on appelle maintenant la théorie de l'information, qui s'appelait à l'époque la cybernétique, hein, qui a été créée par le mathématicien Norbert Wiener, et qui est le premier à parler de conscience artificielle, enfin il parlait de vie artificielle, etc. C'est aussi le premier à dire que le cerveau humain fonctionnait comme un ordinateur. Mais chez Wiener, en fait, c'est des métaphores. Savinard ne croyait pas que l'esprit humain fonctionnait comme un ordinateur. Il s'est dit, par rapport au traitement de l'information, donc il a réduit ce que font les scientifiques, qui réduisent les champs d'expérience, si on prend que le truc de l'information, l'humain, la manière dont il traite l'information peut être modélisée comme le traitement d'information. Voilà. Mais c'était clairement une métaphore, ça n'a jamais été la vie artificielle, la conscience artificielle, tout ça, c'était des métaphores au départ, hein. Mais comme beaucoup de métaphores, on a tendance des fois à le dire au premier degré, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut penser que le cerveau c'est un ordinateur. C'est ce qui va se passer quand il y a un bug dans le cerveau. On va prendre des trucs qui vont modifier la chimie du cerveau parce qu'il y a un bug. Puis on se dit on va rééquilibrer, puis il n'y aura pas de bug. Puis en fait le bug continue évidemment, enfin tant qu'on est sous médicament pas, mais après il revient. Et puis on se dit ah bah c'était pas le bon bug, alors on peut continuer à renforcer la dose de médicament. Enfin bref. Il y a quand même une conséquence très concrète à cette lecture premier degré de la métaphore « le cerveau est un ordinateur ». Donc pour moi, l'IA, ça reste une métaphore. C'est-à-dire quand on utilise, nous, en tant qu'humains, intelligence artificielle, ça va être compliqué de ne pas projeter sur ce truc notre propre intelligence. C'est-à-dire notre propre faculté de relier les choses entre elles. Hein, c'est bien ça la définition de l'intelligence. Hein, c'est Hein, mais sauf qu'en fait, on ne sait pas par quelles règles on règle les trucs ensemble. On sait qu'on a tendance à dire « Ah tiens, j'ai vu ce film. Ah, ça me fait penser à… » souvent, on dit « Ah, je pense à… » On ne sait pas vraiment pourquoi. Puis on peut remonter un peu « Ah, ouais, peut-être que ça, ça. » Donc, on essaie de faire des liens pour expliquer ce qu'on a fait. Et donc, quand on va dire « IA », on va projeter ça là-dessus. Et donc, on dit ce que vous avez dit, c'est tout à fait pertinent. Mais si alors on lui fait bouffer du film, y a bien un moment donné où l'IA va se dire, déjà ça suppose une conscience réflexive, va pouvoir se dire « Ah tiens, je vois ce qu'il faut faire ». Mais vous voyez comme on est en train de projeter sur elle. C'est pour ça que je parlais d'expérience prédateur-proie avant, parce que quand vous la voyez, et c'est pour ça qu'il faut la voir, il y a plein de trucs sur YouTube, vous dites « Le prédateur, il vise la proie ». Ça va être impossible de vous dire, à part quand vous voyez comment ça marche, il n'a pas d'intention. Vous voyez bien qu'il reste planqué, la proie elle arrive, paf, il sort, la proie se casse. Il ne refait plus la même chose parce qu'il a compris que cette stratégie ne marchait pas, donc il va évoluer pour trouver une autre. Et on dit, c'est pas possible, il est doué de conscience. Mais on optimise une fonction mathématique. C'est ça qu'il fait, en fait. Donc nous, quand on voit l'IA, ça va être compliqué de ne pas projeter sur elle la conscience réflexive. On ne peut pas dire autre chose qu'elle se dit. Mais nous, on sait comment on paramètre la réflexivité. C'est quand même un peu... Parce que si elle produit un truc, on va se dire, c'est pas possible, elle est consciente. Donc je pense que c'est ça qui rend le débat complexe. C'est comment faire pour voir l'IA pour ce qu'elle est et non pour ce qu'on projette dessus. Vu que l'humain, en plus, a une capacité incroyable de projeter sur tout ce qui l'entoure plein de trucs. Et en particulier, son affect. Je pense qu'on se fait peur avec l'IA. Ça, c'est intéressant. On projette notre propre affect. Bon, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Et puis, quand on ne comprend pas, souvent, on a un peu peur. Je pense qu'on joue plus avec l'IA que ce qu'on en a vraiment peur, en fait. Réellement. Et ce jeu est déjà en train de nous renseigner sur nous. Ce qui est plutôt intéressant. Alors que l'IA, le fait que des humains la paramètrent, elle n'est pas en train de se demander comment ça se fait qu'on la paramètre. Elle continue à être paramétrée. Et c'est en ça, à mon sens, que le débat autour de l'IA est un faux débat. C'est-à-dire, soit on veut savoir ce que c'est l'IA, puis on va voir comment ça marche dans les algorithmes, et on se dit, OK, bon, en fait, c'est un peu décevant, quoi, d'un coup. Alors, ça peut être extrêmement complexe, mais c'est décevant. C'est-à-dire, en fait, on voit bien que c'est des optimisations de fonctions, que vous avez tout est logique. En fait, tout est logique. Même cette espèce de conscience émergente, soi-disant émergente, elle est déjà paramétrée logiquement. Il y a des espaces de liberté, entre guillemets, l'IA peut... Voilà. Mais elle doit quand même tester. J'essaye de ça. Est-ce que ça marche? Non. J'écarte, donc je deviens un peu plus intelligente la fois d'après, etc. Puis elle fait ça statistiquement sur des milliards d'opérations. Là, on voit qu'on est très, 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 très loin de l'IA, par exemple, parce que nous, on ne fait jamais ça. On se dit, j'ai deux choix, déjà, c'est compliqué. J'ai deux possibilités. Souvent, je prends celle qui est la moins bonne. Voilà. Parce que j'ai de l'affect qui arrive dessus. C'est-à-dire que je projette mon affect et en plus, une partie inconsciente assez importante, apparemment, qui fait que je ne suis même pas sûr de maîtriser la raison pour laquelle je fais ce choix-là. Puis après, j'assume, parce que bon, je suis un être humain, moi. Autant l'assumer que de pleurer toute ma vie. Hein. Donc nous, déjà, avec deux ou trois possibilités, c'est compliqué. Imaginez des milliards. Hein. On est radicalement autre de l'IA. Et on essaie de la rapatrier dans notre monde à nous, en imaginant qu'elle puisse avoir une conscience réflexive. On va dire qu'elle, que ce soit un être. C'est un logiciel, en fait, hein, c'est pas un être. C'est un être au sens philosophique du terme, mais c'est pas un être, une entité vivante ou humaine. Et finalement, c'est nous qui la rendons humaine, alors qu'on devrait la garder outil. C'est comme notre téléphone. Si je projette, vous voyez, si je suis tout seul, voilà, je ne sais pas, je suis tout seul dans ma vie, comme beaucoup d'occidentaux, finalement. On a atomisé l'individu. Et puis, je parle avec plein de monde. Je discute avec des gens sur les réseaux, tout ça. Je vais sur Tinder en espérant que je vais trouver l'amour de ma vie. En fait, mon téléphone n'est plus un outil. Il devient le support d'un affect. J'attends de lui, alors pas de lui, parce que voilà, mais quelque part, j'attends de l'application qu'elle me mette enfin en contact avec mon âme sœur. Mais l'application, on n'a rien à foutre. Hein. Ça, elle ne marche pas comme ça. Et il y a une thèse de l'EPFL qui a été faite il y a quelques années par une jeune femme que vous pouvez d'ailleurs inviter, qui s'appelle Jessica, mais je ne me rappelle plus son nom de famille, c'est tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Jessica, et qui a fait sa thèse...
Pidou,
voilà. Ouais, qui a fait sa thèse sur les algorithmes de Tinder, qui fait que nous, quand on va sur Tinder, on va projeter ce qu'on attend. Et donc, on va sélectionner des profils par rapport à nos attentes plus ou moins conscientes, en plus, parce que... Bon. Mais l'algorithme de Tinder, il ne marche pas comme ça. En fait, il réduit les possibilités et pas il les attend. Typiquement, elle montrait que suivant la manière dont vous mettez votre photo de profil, depuis le bas, depuis le face ou depuis le haut, vous n'allez pas être mis en corrélation avec les mêmes profils. Parce que quelqu'un qui se prend en photo depuis le haut, il prend un code de séduction sur les réseaux sociaux et donc il va plutôt être mis en relation avec des gens qui utilisent le même code mais dans un autre sexe, par exemple. Mais nous, on n'a pensé ça. Enfin, on ne s'est pas dit... Et en plus, il y a plein d'autres paramètres, parce que tout ça va ensemble. Donc, c'est des manières de gérer les paramètres. Très, très bien. Mais nous, on aura l'impression seulement que notre téléphone avec qui on va compulsivement utiliser, il va nous donner accès à notre âme sœur. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fait, en fait. Donc, l'IA, je pense, c'est un peu ça. Si on réglait ça comme un outil... Si on disait non, en fait, pas du tout, ça va mettre en contact avec des gens, et plus de gens que ce que j'absorberais dans une vie normale, parce que techniquement, dans une vie normale, on ne compte pas 200 personnes par jour. Donc, ça va multiplier les problèmes plus que ça va les diminuer. De nouveau, hein, si je dois choisir entre 3 hommes ou 3 femmes, c'est plus facile qu'entre 200, techniquement. Et d'un coup, on pourrait dire, mais en fait, ce n'est pas un problème, STAP. Le problème, c'est que je cherche le bon profil. J'optimise moi aussi. C'est plutôt ce que va faire la science-fiction d'ailleurs, c'est que si j'utilise cette app, je vais commencer à attendre que l'autre ne soit pas autre. Je vais attendre que l'autre, ça soit moi, en fait. Puisque l'algorithme va fonctionner comme ça. Je vais sur Amazon, je commande un essai de Schopenhauer, dans mes suggestions, j'aurai des trucs en lien avec ça, puis plus j'aurai fait de commandes Amazon, plus ça va affiner l'IA, puis à un moment donné, on dira, c'est super, j'ai vachement envie de lire ça. Parce que c'est vrai. Mais ce que vous lisez, c'est ce que vous voulez lire. En fait, c'est tout. Mais il ne va pas vous proposer un autre machin qui n'a rien à voir. Enfin, donc, en fait, sur Tinder, on rencontre soi. Ou plutôt, on espère rencontrer soi. C'est pour ça que ça ne marche pas, souvent. À part si vous rusez avec l'IA. Alors que dans la vie, c'est... oui, on peut aussi rencontrer soi. Mais la probabilité est quand même plus grande qu'on ne rencontre pas soi. Puisqu'on n'est pas d'abord dans un échange de données. Alors, peut-être inconsciente, machin, mais pas en tout cas de données factuelles. Mon âge, mes lobbies... ma photo de profil, le dernier film que j'ai vu, enfin, je ne sais pas les paramètres qu'il y a. Mais... Alors ça, c'est ce que Jessica montrait dans sa thèse, c'est qu'on pouvait ouvrir l'algorithme de telle manière qu'il ne vous mette pas en corrélation au niveau des datas, en fait, et qu'on ne vous réduise pas vos datas. Vous voyez, ce n'est pas l'IA qui devient intelligente ou qui est plus performante, c'est nous qui nous mettons dans la logique de l'IA. Et c'est ça qui ne va pas, en fait. Et si on avait conscience de ça, on se dirait, peut-être c'est pas... C'est une manière de rencontrer du monde, oui, mais de me rencontrer moi, surtout. Alors, je peux avoir envie de me marier avec moi. Hein. C'est une forme de narcissisme, que ça, mais je peux. Mais après, il ne faut pas que je me plaigne, disons. Mais c'est en tout cas pas, c'est pas l'altérité que je vais chercher. Mais en tant qu'humain, je vais chercher l'altérité. Et c'est là où on se fait berner. C'est-à-dire, en fait, on va chercher l'altérité. C'est comme quand on va sur des réseaux comme WhatsApp, etc. On va chercher le contact, mais en fait, on ne l'a pas. Puisque par définition, on est à distance de l'autre. Et donc, si je commence à me faire avoir sur une discussion de quelqu'un qui habite à un quart d'heure de chez moi, puis que je discute, je vais chercher le contact, mais en fait, je ne l'aurai pas. En fait, je ne communique pas. C'est juste que je comble ma solitude. Puis voilà. Parce que je peux faire 15 minutes en voiture ou en train ou n'importe quoi pour aller voir la personne. Et là, je pense que je communique. Parce que seulement, ce n'est plus que de l'échange d'informations, c'est du corps, de l'émotion... Enfin, c'est tout ça. Et c'est plutôt ça que va faire la science-fiction, en fait. Elle va plutôt utiliser cette image de l'IA, et les auteurs connaissent assez bien ces trucs-là, en disant, mais en fait, le vrai problème, enfin, le vrai pour eux, hein, le vrai problème de Tinder, c'est... Bon, je n'ai pas d'exemple en tête pour Tinder, je crois que c'est un peu trop bas étage, mais c'est qu'on rencontre que soi. Voilà. Donc on pourrait... Mais c'est un bon truc de récit, hein. C'est un bon début de roman, de rencontrer que soi. Il y a un côté un peu... solipsiste comme ça.
Magnifique. Bah, d'ailleurs, justement, pour Jessica, je crois qu'elle était même allée plus loin, où elle disait que, bah, en fait, non seulement l'IA faisait ce que tu as dit, mais en plus, ça reproduisait un certain nombre de biais de société en mettant des hommes dans certains âges avec des femmes plus jeunes, des hommes au niveau socio-culturel.
Alors, c'est à la fois des datas perso, et en plus, c'est des datas qui sont... les algorithmes fonctionnent sur ces statistiques. Effectivement, un homme entre 40 et 50 ans, il y a des chances qu'il cherche plutôt une femme entre 30 et 35 ans.
C'est ça, ouais.
Statistiquement, heureusement encore que c'est là, parce que si c'était 20 ans, on serait mal. Et donc forcément, on se dit « Ah, c'est super !» Puis on se dit « Une femme de 30-35 ans, elle peut-être en recherche de stabilité, statistiquement, donc un type de 40-45 ans, c'est peut-être pas mal. » Mais ce que vous, on voit bien qu'on rencontre ce qu'on veut, en fait. Et moi, j'ai un peu l'impression, peut-être romantiquement, que la rencontre amoureuse, c'est pas ce qu'on veut. Sinon, c'est un peu chiant. Enfin,
tout comme les lectures intéressantes, c'est pas forcément celles qui sont en lien avec celles qu'on a déjà lues. Mais j'aimerais revenir un peu par rapport à ce que tu disais, notamment sur la science-fiction. Ça m'a aussi pensé à la théorie du fictionnaire de Dominique Genvray, qui disait la science-fiction, la fiction de manière générale, c'est un peu l'ouverture des possibles et puis nous faire voir la réalité autrement qu'on l'aurait vue, entre guillemets, normalement. Et je voulais te demander, comment est-ce que tu penses que finalement la fiction, plus précisément la science-fiction, ça nous aide à concevoir les étapes, les difficultés qu'on traverse, les nouveautés, parce qu'on les a déjà un peu vécues, parce que avoir aujourd'hui face à nous ces entités artificielles, quelles qu'elles soient, finalement on a déjà un peu réfléchi à tout ça, on a déjà à travers les œuvres qu'on a déjà vues. Donc est-ce qu'on n'a pas été préparé, est-ce que ça nous aide? Et puis par ricochet, on va y arriver dans quelques minutes, est-ce que c'est pas aussi un outil intéressant qu'on pourrait utiliser dans nos classes avec nos élèves pour les aider à repenser mieux la société aujourd'hui, les choses qu'ils traversent et celles qu'ils vont peut-être traverser demain?
Bon, c'est pas
de beaucoup de questions,
c'est pas la petite question. Alors, je pense que je trouve qu'une bonne manière de comprendre la fiction, ça s'est basé sur une limitation naturelle, pour dire ontologique comme ça. C'est qu'on est, quoi qu'on veuille, bloqué de notre point de vue. Enfin, ça, on le sait tous, quoi. C'est on ne perçoit le monde qu'à travers notre point de vue, qui est déjà l'amalgame de plein d'autres trucs, notre éducation, nos valeurs, enfin, tout ça. Mais bon, en gros, quoi qu'on fasse, on voit le monde avec notre point de vue. Et quelque complexe que soit ce point de vue. Ce qui rend déjà la communication humaine un peu miraculeuse en soi, puisque l'autre n'a pas notre point de vue. Alors, il y a évidemment des points où on est d'accord, parce qu'on vit dans une société, donc ça va. Puis évidemment, il y a plein de points où on ne l'est pas du tout, sans vraiment en plus savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Donc, la fiction, elle a toujours eu c'est Jean-Marie Schaeffer qui parlait de ça. Elle permet de nous proposer de vivre un autre point de vue que le nôtre. On sort de notre point de vue, on adopte le point de vue de Madame Bovary, par exemple, et puis on y croit pendant 400 pages, et puis après, on revient dans notre point de vue. Mais ce faisant, en vivant cette vie par procuration, j'ai la chance, c'est impossible, c'est pas une obligation, de pouvoir réfléchir à mon point de vue, nuancer mon point de vue, l'étendre. En gros, le roman permet de dialoguer avec mon point de vue par le biais d'une autre altérité dont j'ai épousé la vie pendant un certain nombre de pages. Et c'est-à-dire, une des fonctions anthropologiques de la fiction, c'est cette capacité au décentrement. J'adopte un autre point de vue, je vis une autre vie, je reviens à ma vie, je peux donc évaluer ma vie ou la critiquer, pour faire simple. Ma vie n'est pas la techno, machin, mais ma vie. Donc dans la science-fiction, on a exactement cette fonction-là. Je sors de mon monde, alors en plus c'est représenté dans la fiction puisque c'est un autre monde, je sors de mon monde, j'adopte comme un autre point de vue. Voilà. Ce qui est intéressant de 1984, c'est pas le télécran Big Brother, c'est Winston Smith. C'est lui qu'on suit pendant 400 pages. C'est pas le télécran, finalement, il est un peu là, c'est de la déco. Et puis je vis ce qu'il vit comme ça. J'éprouve des émotions en plus, réelles, de ce qu'il vit. Donc logiquement, quand j'ai fini le roman, je suis censé revenir et j'ai une manière de dialoguer avec mon point de vue. Plus ou moins, ça me parle plus ou moins, ou pas, quoi. C'est plus ou moins confortant dans mon point de vue. Ah tiens, c'est bien de voir. Hein. Ou inversement, c'est plus ou moins déstabilisant par rapport à mon point de vue. La science-fiction, elle fait exactement ça. Donc c'est une fiction comme une autre. Donc elle fait ça, elle dit, je vous mets dans la vie de tel et tel. Qui est entourée de capteurs. Et je crois que là où elle fonctionne, c'est qu'elle fonctionne sur cette capacité empathique du lecteur, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que le lecteur ou le spectateur se reconnaît tout le temps dans la science-fiction. Il reconnaît tout le temps quelque chose qu'il a vécu. Tout le temps. Mais minimalement. Je cherche un exemple signifiant et rapide. si je prends la figure du robot, par exemple, si je lis un roman avec des robots, bon, pas n'importe quel roman, mais... puis que je vois ces espèces d'êtres mécaniques, mais anthropomorphes, hein, enfin, qui ressemblent à l'humain, qui travaillent jour et nuit, sans aucune forme de conscience. Je me dis, normalement, un être humain un peu préconstitué, il se reconnaît un peu. Il dit, ah, je vois un peu ce que c'est, ces journées harassantes où je fais le même truc répétitif, jour après jour. Puis je coupe un peu mon esprit de temps en temps, parce que sinon, ça devient un peu compliqué de supporter. Enfin, c'est le film étant moderne de Chaplin, hein. Donc je me dis, ah, peut-être que le robot ne me parle pas vraiment du robot, quoi. Peut-être que le robot, c'est une bonne image pour me parler de moi. Ou si je prends un autre exemple plus contemporain, si vous, ce film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ex Machina, où j'imagine que je suis une jeune femme. Alors, c'est l'avantage de la fiction, c'est que je peux être une jeune femme même si je suis un homme. Imaginons que je suis une jeune femme robot. Ça commence à devenir un peu plus compliqué, qui vit dans un laboratoire. Voilà. Donc, je suis une jeune femme, robot.
Complètement sexualisée.
Hyper sexualisée. Enfin, son visage, parce qu'en fait, on ne voit que son visage quasiment tout le temps. Ultra belle, en tout cas. Et je suis dans ce labo où il y a deux types, là. Un vieux et un jeune. Le vieux, c'est le patron du labo. J'ai bien compris que le vieux, il s'accouplait avec tous les robots. Bon. Puis, il y a un jeune qui est une sorte d'ingénieur un peu moche, comme ça, qui peut que tomber amoureuse de moi, parce que je suis quand même vachement plus belle que lui. Et de fait, l'actrice est quand même plus belle que l'acteur. Et qui se dit, ah, mais cette pauvre robot qui va finir dans le pieu d'autre type, là, donc il veut la sauver, comme ça. Là, je commence à vivre une vie qui est assez différente de la mienne. Hein, bon, mais j'aime bien, je trouve intéressant ces personnages, ce huis clos, tout ça. Puis à un moment, je me dis, tiens, c'est marrant, cette fille, elle va probablement se barrer, quoi. Enfin, faut quand même qu'elle... Donc, elle commence à manipuler les deux types, ce qui n'est jamais très compliqué, mais elle commence à manipuler les deux types pour pouvoir partir. Là, on se dit, ah, les robots, l'IA, c'est dangereux, machin, ça. Donc là, on commence à comprendre pourquoi on a peur des IA. Alors, on se dit, bon, ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le jeune ingénieur va dans le laboratoire parce qu'il doit tester dans quelle mesure ce robot passe le test de Turing, c'est dans quelle mesure on pourrait la confondre avec un être humain. Donc, il vient pour la tester, hein. Voilà. Alors, il tombe amoureux, ce qui est la meilleure manière de remplir le test de Turing. Et puis, bon, elle fait tout ce qu'elle peut. Bref, elle en tue un. Hein, enfin, c'est pas elle, mais passons. C'est ses cousines robots. Et puis, en même temps, l'autre type, elle l'enferme. Il ne peut plus sortir. Dernière séquence du film. Elle ouvre une... Elle l'a trouvée dans une pièce secrète des robots démantelés, en fait. Donc, elle comprend que si elle n'obéit pas aux ordres, elle va finir dans le placard, quoi. Donc, il y a une très belle scène poétique... Au-delà du fait que ça nous rappelle évidemment Barbe Bleue, mais elle enlève son corps robotique, parce qu'en fait, tout le film, on voit que son visage d'actrice, elle enlève son corps, puis elle le remplace par le corps qui n'est pas robotique des autres robots, enfin, qui est recouvert de peau. Et donc, à la toute fin du film, on la voit complètement humaine. Nue par ailleurs, mais complètement humaine. Puis elle sort du laboratoire, les deux types étant un mort, l'autre enfermé. Et donc là, on a toutes les angoisses sociales qui explosent, la LIA, attention. Mais quand on fait de la fiction, on se dit, OK. Alors, en fait, j'ai vécu la vie de cette femme-là. Un temps, on va demander aux élèves qui ont vu ce film, en histoire des médias, on leur dit, imaginez que vous êtes cette femme. Vous grandissez dans un laboratoire, il y a un type qui veut s'accoupler avec vous, et un type qui ne vous demande pas votre avis, mais qui tombe amoureux de vous. Un, il veut vous sauver, contre votre gré, il ne veut même pas poser la question, et l'autre, il veut vous exploiter. Qu'est-ce que vous faites? Et tout le monde vous dit, je me casse. Qui est d'ailleurs le sous-titre du film que personne ne lit jamais, il n'y a rien de plus humain que la volonté de survivre. Okay. Autrement dit, je comprends que ce robot n'est pas du tout un robot. C'est ce qu'est un être humain lorsqu'il est pris dans des instrumentalisations, qu'elles soient sexuelles, évidemment, ou amoureuses. Parce qu'une bonne manière d'instrumentaliser quelqu'un, c'est de tomber amoureux de la personne. Donc d'un coup, ce robot me parle de moi. Il ne parle plus du tout de l'IA. Mais il me dit, dans ma vie de tous les jours, il m'arrive parfois, malheureusement, même peut-être souvent, d'avoir un peu le vague sentiment d'être instrumentalisé, c'est-à-dire de devoir me comporter d'une bonne manière pour ceci ou pour cela. Et ce faisant, je suis un robot. Hein, ce faisant, je suis une IA. Je ne le suis pas ontologiquement, mais ce film m'est en train de me dire ce que j'ai déjà ressenti dans ma vie. Mais évidemment, ma conscience fait que j'ai de la peine à me dire que si mon mari est amoureux de moi, Peut-être que ce n'est pas pour les bonnes raisons, par exemple. Ce n'est pas évident de se dire ça. Ou de se rendre compte que si quelqu'un tombe amoureux de vous, bah, ce n'est peut-être pas d'abord pour l'échange et la réciprocité de l'altérité. Ça peut être pour d'autres raisons. On a un peu tendance à résister à ça. Donc forcément, on va rajouter plein de trucs mystiques et puis on a l'impression que tout ça est magnifique. Et après, on se réveille. Le film nous parle de ça. Et la fiction nous permet d'adopter ce point de vue. Elle nous permet après de ressortir et puis de dialoguer avec nous en changeant de... Hop, on vous a foutu dans le point de vue de la jeune femme, donc dire, mais moi, je vivrais comment cette histoire-là si j'étais cette jeune femme? Et on se rend compte que tout ce que tout le monde ferait... En plus, elle n'a pas le droit de sortir du labo, évidemment. Hein, c'est que j'essaierais de me barrer. Et comme je ne peux pas, bah, je manipulerais les types qui sont là pour essayer de me barrer. Parce que franchement, ouais. Donc, c'est une bonne image, une métaphore, c'est une bonne image de l'instrumentalisation sexuelle et amoureuse. Bon. D'où l'importance et le lien avec Barbe Bleue. Mais jamais je parle de la techno. Je ne parle pas de la vraie IA. Là. Donc je pense que pour répondre à la première partie de ta question, la science-fiction, elle fait ce que fait toute la littérature ou le cinéma. Elle essaie de créer un récit qui résonne avec nous, qui nous permet de changer de point de vue et de nous questionner, nous et le monde dans lequel on vit. Puis pour la deuxième partie de ta question, je viens de faire deux articles.
Je suis désolé, c'est long là, ma question.
Ouais. Non, mais ça me va. Mais je viens d'écrire deux articles qui m'ont été, un qui a été demandé par l'instruction à Genève, justement, sur pourquoi enseigner la science-fiction au secondaire 2. Et c'était assez intéressant parce que j'ai, comme tout le monde, un peu des vieux potes, profs de gymnase, qui m'expliquent un peu les objectifs. Alors, je suis allé voir le plan d'études vaudois, ce qui m'a un peu fait peur, comme ça. Mais j'ai été voir le plan d'études vaudois, puis après, je discutais avec les gens qui m'expliquent ce qu'ils font comme roman. Puis je trouve ça intéressant, par ailleurs. Hein. Moi, je trouve que c'est vachement beau, les liaisons dangereuses. Je ne suis pas sûr qu'à 16 ans, ça soit adapté. Mais je trouve que c'est vachement beau, quoi. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est une littérature qui souffre pas... Enfin, en fait, elle s'en fout, mais elle souffre un peu du sentiment qu'on a, qui est un sentiment qui est difficile à argumenter d'ailleurs, qu'elle serait un peu de la paralittérature, parce qu'elle a longtemps été considérée comme ça dans le milieu francophone. Mais Boris Vian disait en 1966, si vous n'avez pas lu 100 romans et 1000 nouvelles de science-fiction, n'en parlez pas. Ah, c'est dans... Alors, vous êtes sûr de ça? C'est dans... 59. Alors, c'est peut-être en 56, dans cinéma, cinéma quelque chose. Ouais. Puisque c'est le premier traducteur de Van Vogt, La faune de l'espace. Donc, c'est les années 50, mais j'arrive plus à savoir... Je trouve peut-être 56, mais c'est cinéma quelque chose, le recueil. Il dit ça, de manière un peu provocatrice. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes aujourd'hui, mais pas que eux, nous aussi... On vit dans un monde où ces technologies, disons, elles sont omniprésentes, et en particulier le téléphone portable. On ne leur apprend pas trop à se dépatouiller avec. J'étais frappé, mon fils a 11 ans, donc il a eu le droit à ses 2 heures de cours de cybercriminalité. Voilà. Enfin, contre la cybercriminalité, et évidemment. Et on m'a expliqué que pendant tout leur cursus, jusqu'à la fin du gymnase, ils ne feront que ces 2 heures. Ah, bon, ok. Bref. Moi, j'ai dit, tiens, c'est marrant, j'ai discuté avec le flic, c'était un type de la police cantonale, j'ai dit, mais depuis quand l'école a baissé les bras? J'ai dit, mais depuis quand? En fait, offrir un téléphone portable à un enfant aujourd'hui, c'est lui offrir sa prison. Et on le sait parce que nous, on est déjà en prison. On le sait bien qu'on passe tellement de temps là-dessus. En fait, on se dit peut-être, fais mieux que moi, je sais pas quoi. À 11 ans, c'est compliqué quand même. Et en plus, comme on ne sait pas vraiment ce que c'est, c'est un peu un complexe de nos désirs, de nos fantasmes. Il y a une espèce de truc, c'est quand même très. Il y a un côté un peu mécanique du désir, il y a un côté très Deleuze là derrière. Là. On y projette tellement de trucs. C'est quand même compliqué d'imaginer que le gars a 15 ans. Il va réussir à dire oh, « attention, hein. En plus, ses parents sont mal foutus parce qu'ils n'arrivent pas à faire mieux. » Vaguement, quoi. Ils n'auront peut-être pas de photos d'eux, mais bon, c'est une question de génération. Puis, ils ont 2 heures dans leur cursus. Bon, alors, je me dis « Tiens, c'est marrant, mais eux, ils vont vivre dans ce monde-là. Donc, eux, ils vont devoir se dépatouiller avec ça. Hein. » Concrètement, ça va être chaud. Hein. Et je me dis « Tiens, d'un coup... » La science-fiction devient intéressante parce qu'elle ne va pas nous aider à nous dépatouiller avec ça. Enfin, ce n'est pas du développement personnel. Hein. C'est de la littérature. Mais elle va nous aider, à condition qu'elle soit évidemment étudiée, elle va nous aider un petit peu à dialoguer avec ça. Par exemple, aujourd'hui, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette maladie, mais je sais qu'elle avait un nom un peu étrange. C'est une maladie qu'on présuppose être une maladie du futur. C'est que, comme on est dans un outil qui peut devenir un outil de compensation, mais qui, contrairement à l'alcool, disons par exemple, qui est toujours dans la poche, hein, l'alcool, c'est rare qu'il y ait toujours... en tout cas à 12 ans, c'est rare, face à des situations problématiques, en fait, il devient un outil compensatoire, donc on passe très vite dessus à pouvoir se nourrir de vidéos, et on n'apprend plus à gérer les problèmes. Donc on est toujours un peu comme un enfant, dès qu'il y a un problème qui arrive, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 25 ans, on risque de ne pas savoir le régler, quoi. Si on n'a pas galéré pendant 3 jours, on était effectivement une fois boire un verre, on a fini complètement ivre, le lendemain on s'est senti hyper mal... Enfin, cette expérience qui n'est pas glorieuse, mais qu'on peut vivre plus ou moins, mais elle permet d'apprendre, en fait. C'est-à-dire que si je vais passer mes 8 heures sur YouTube pour voir 25 trucs, je ne vais pas apprendre à régler le problème, si ce n'est à passer sur YouTube. Bon. Et je crois que la science-fiction, chaque roman différemment, chaque film différemment, elle fait ce que font tous les autres récits. Elle permet de pouvoir se poser des questions là-dessus, sur la nature humaine, mais dans un contexte scientifique et technologique. Donc elle nous aide à dialoguer avec ce truc. Tout comme des romans d'amour nous aident à dialoguer avec le sentiment amoureux. Ils ne vont pas faire qu'on sera un meilleur amant. Ils vont juste faire en sorte qu'on soit capable de dialoguer avec le sentiment amoureux. Idem pour la souffrance ou la mort. Aujourd'hui, on est là-dedans. Donc pour moi, dans le secondaire 2, je m'étais dit, tiens, c'est marrant qu'ils ne travaillent pas là-dessus. Alors ça dépend des profs, on s'entend. Mais c'est quand même une minorité. Et moi, comme j'enseigne en master et en première année, donc en première année à l'université, je capte ceux qui sortent du collège ou du gymnase, et je trouve incroyable ce qu'ils savent. Enfin, dans le sens, c'est super, ils peuvent me trouver des trucs, c'est une synecdoque, etc. Je dis, et alors ? Ok, c'est super, bravo, et alors ? On en fait un truc, vous pouvez repérer une métaphore, et alors ? Moi, je m'en fous, vous avez repéré de pétaphore. Je veux dire, fous complètement. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle me dit, et qu'est-ce qu'elle dit, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Quand Flaubert écrit, il ne se dit pas « Ah, je vais mettre une métaphore à la page 273 de mon manuscrit. » Enfin, personne ne fait ça. Je préfère avoir une vision organique du texte, puis après être capable de nommer, que l'inverse. Puis je leur dis « Vous avez fait quoi comme roman de bac, par exemple ?» L'année passée, il y a des types, ils disaient « Les mémoires d'Adrien. Ah ouais, sérieusement. Qui c'est qui se dit qu'un type à 18 ans, il va triper sur Yourcenar dans les mémoires d'Adrien? Si c'est le Nouvelle-Orientale, ça va. Mais parce que les profs sont des passionnés, machin, c'est super. Les types, ils savent dire la Grèce antique, enfin l'Empire romain, ils savent pas ce que c'est. Ils se sont un peu là. Pff, voilà, c'est pas leur préoccupation principale, ce que je peux assez bien comprendre, à part quelques-uns, évidemment. En général, les profs. Et j'ai rien contre ça, parce que c'est un magnifique texte. Compliqué, mais magnifique texte. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils nous font un peu ce que les profs ont appris à l'université. Un peu de Moderato Cantabile, un peu de Sartre, un peu de Camus, tout ça marche bien, Camus pour les jeunes. Et je me dis, ok, c'est bien de faire ça. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a un roman qui est sorti d'une jeune femme, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qui s'appelle After Air, enfin Air Registered, qui est fait par une jeune femme dont je ne me rappelle plus le nom, qui est son premier roman, et qui invente une dystopie. Je ne sais pas si c'est bon, hein, je ne l'ai pas lu. Mais encore, qui invente une dystopie dans laquelle tous les individus doivent parler en langage inclusif. Et s'ils ne parlent pas en langage inclusif, ils sont punis. Je trouve ça marrant. Pourquoi ? Parce que c'est une femme, c'est un registre textuel qui est assez particulier, qui est le régime de la dystopie. C'est forcément des récits assez chocs comme ça. Donc c'est ce que fait 1984, hein, c'est une dystopie. Et qui questionne quelque chose d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais donc, si vous lisez et que c'est de la merde, il ne faut pas me dire c'est à cause de moi, je ne l'ai pas lu. Mais je me dis, ça peut être un truc qui est intéressant. Parce que d'un coup, on vient connecter avec l'élève qui grandit dans ce monde-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Ça veut dire qu'on peut aussi faire ça. On vient se connecter pour lui apprendre à dialoguer avec ce truc. Pas pour dire d'être pour ou contre. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si le roman est bien. Hein. Je ne sais pas si c'est un roman à thèse ou pas. Ça ne m'a pas l'air, mais à voir. Parce que ce monde-là. Il l'éprouve, il se rend bien compte qu'il y a des choses qu'il n'a plus le droit de dire, et puis que s'il dit un truc, ça peut être Il peut être jugé, donc il va avoir tendance à s'auto-censurer. Puis quand on commence à s'auto-censurer, c'est jamais très très bon signe, parce que ça veut dire que la question de la liberté, elle se pose, puis la question de la réflexion aussi, parce que quand on s'auto-censure trop longtemps, on arrête d'y penser. Puis on est en désaccord avec toi, avec soi, donc on doit se dissocier. Enfin, c'est pas un petit truc de s'auto-censurer. C'est pas juste de la bien-pensance. Il y a des conséquences qui sont psychologiquement problématiques, surtout dans un âge de formation de 16 et 20 ans, par exemple. Ça crée plein de trucs. Mais on pourrait le faire avec n'importe quoi. Quand je discute tout ça, pourquoi vous faites Madame Bovary? Ah, mais c'est quand même vachement beau. Je dis, pourquoi c'est beau? Je ne suis pas à discours indirect libre. Pourquoi c'est beau, le discours indirect libre? Il y a quoi de beau dans le... Je dis pas que c'est pas beau, je dis, il y a quoi de beau? On se rend compte, souvent, il n'y a pas de question. Puis je dis, vous vous rendez compte que ça parle d'une femme malheureuse dans un mariage bourgeois au 19e siècle qui va chercher l'amour dans les fictions qu'elle lit? Vos jeunes, eux, ils croient encore à l'amour. Ils savent pas, ils ne peuvent pas savoir, Flaubert n'a jamais écrit pour des jeunes de 16 ans, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que l'état d'une jeune, enfin d'une femme mariée, malheureuse dans son amour, qui va chercher dans une fiction ce qui lui permet de survivre et de crever. C'est pas possible, c'est impossible de comprendre ça. À cet âge-là, après oui. Bon, il faut déjà avoir un peu vécu le truc, mais après ça va, quoi. Après, on comprend que oui, bah, des fois, ça va tellement mal que je me réfugie ailleurs. Mais eux, ils pensent encore que ça peut aller bien. Inch'Allah, comme ça. Hein? Et donc, ce n'est pas pour leur dire qu'il ne faut pas faire Madame Bovary, parce que j'adore ce roman. Mais c'est plus dans le sens de dire, on se rend compte que là, on est en train de connecter avec les grands auteurs. Et c'est bien qu'ils voient des grands auteurs. Ça permet de créer sur le style, de réfléchir sur le style, d'autres manières de penser, enfin... D'élargir des points de vue, ça leur sera peut-être utile un jour, ne leur souhaitons pas ça, surtout si c'est Charles. Mais la science-fiction, elle fait ça aussi. C'est juste qu'elle fait ça autrement et sur d'autres trucs. Et c'est pour ça que je ne comprends pas qu'elle soit encore mise de côté. Parce qu'il n'y a aucun sens. Si on voulait du stylistique, il y a plein de romans. Mais en plus, on n'est pas censé faire du méga style. Enfin, je veux dire, en gros. On apprend quelques outils. Alors, je ne sais pas, vous prenez Damasio, c'est compliqué comme ça. Vous prenez une nouvelle, donc aucun souvenir assez solide, ce n'est pas facile. Alors, vous pouvez vite repérer les métaphores. Vous pouvez faire un peu de Deleuze pour ceux qui veulent un peu triper philo-littérature. Vous pouvez parler des réseaux sociaux, de la solitude existentielle. Enfin, donc, vous avez quand même pas mal de trucs. Il n'y a pas rien, quoi. Enfin, Après, peut-être que vous n'allez pas analyser les allitérations. Bon, pas de bol, vous pourriez avec Damasio, mais disons, vous n'allez peut-être pas analyser, je ne sais pas, le point de vue narratif, la perspective narrative. Mais par contre, il y aura tellement d'autres trucs qui vont se connecter avec les élèves, et puis c'est très bien qu'après ils aient un petit moderato, puis qu'après ils aient, je ne sais pas, un petit, je sais pas quoi, un petit Jacques le Fataliste, et c'est très bien. Mais c'est comme si, voilà, il n'y avait pas ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a la possibilité de dialoguer avec. Et je crois que la science-fiction, elle fait ce que fait la littérature. Elle nous permet de dialoguer avec. Pour que face à mon téléphone portable, la prochaine fois que je le regarde, je me dise, j'ai quand même un peu conscience que si je le prends, c'est que je me sens tout seul. Parce que si j'avais la possibilité entre mon téléphone dans une main et une vraie main dans la mienne, je pense que je préfère la main dans la mienne, hein, bizarrement. Mais comme je n'ai pas de main dans la mienne et puis que toutes les mains sont devenues dangereuses, puisque aujourd'hui, dès que quelqu'un s'approche de vous, ça devient un danger public, bah, au moins ça va, je suis rassuré. C'est pour ça que Damasio utilise cette métaphore qui est le techno-cocon. Hein. Je suis rassuré. Voilà, c'est bon. Tout va bien. C'est grave. Voilà, ça, je me sens beaucoup mieux. Je ne suis pas tout seul dans le train en me disant il n'y a personne. Tout le monde, de créer ce dialogue-là, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Je ne dis pas que ça a changé la vie du monde. Je dis c'est pas mal. C'est tout aussi bien que de voir, huit clos de Sartre. Voilà. Ça, j'ai répondu à tes questions qui étaient quand même un peu compliquées.
Je m'en excuse.
Je pensais à une chose. Bon, on a fait un peu de chemin depuis dans tout ce que vous dites, qui est passionnant. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que une des choses qui fait peur dans l'IA, peut-être aujourd'hui, c'est le fait qu'elle nous met face qu'on s'illusionne probablement sur notre capacité à avoir une vraie sensibilité, une vraie subjectivité et à développer une pensée qui soit vraiment purement originale et qui ne soit pas le produit de notre milieu social, de notre éducation, de tout ce qu'on a lu et fait, etc.
Ce sera parce un peu que, le support oui, de machines, mon fantasme.
Je ne sais pas, parce que oui, c'est vrai que ces machines, elles produisent des textes qui sont, je pense aux IA génératives de textes, hein, elles produisent des énoncés qui sont stéréotypés, qui sont des simulacres, hein, je ne parle même pas de la conscience, mais qui sont des simulacres faits sur des modèles statistiques. Ouais. Peut-être bien, hein.
Ouais.
Et ils ne sont pas comparables aux textes littéraires. Mais enfin, c'est quand même vrai que les textes littéraires qui sont véritablement touchants et qui vont traverser les siècles, c'est l'exception, quoi. Comme vous disiez, très peu d'entre nous sont véritablement capables d'en produire. Ouais. Et donc, est-ce que c'est vraiment à cette aune-là qu'on devrait se mesurer, s'il faut se mesurer, je ne sais pas du
tout. Alors, évidemment, la réponse est que non. Les modèles régressifs fonctionnent sur des statistiques. C'est-à-dire, en fait, si vous mettez une suite de mots, statistiquement, le suivant, on a déjà tous eu cette expérience dans le monde réel où quelqu'un commence une phrase puis on la finit. Ah bon, après, ça peut donner l'illusion, une histoire de connexion, machin, mais c'est plus prosaïquement le fait que la plupart de l'utilisation du langage qu'on fait est stéréotypée. Et donc, on voit déjà un peu les adjectifs qui vont être utilisés, les constructions de phrases, etc. Donc, on a un peu cette expérience-là. Bon. Tant mieux, d'ailleurs, c'est la preuve aussi qu'on est... Quelque part, on est dans une société qui a des espèces de modèles de conversation, etc. Donc, je ne crois pas qu'effectivement... Enfin, se confronter à l'IA, c'est se confronter à nos modèles les plus basiques, en fait, puisque c'est ceux qui sont paramétrables. Donc, ça, c'est presque une évidence. Par contre, je ne pense pas que c'est pour ça qu'on se confronte. C'est pour se rendre compte qu'on n'est pas plus que ça. Parce qu'en fait, techniquement, on est plus que ça. La question, c'est, ça me rappelle ce texte que vous connaissez peut-être, qui est un des textes qui m'a, enfin une phrase que j'aime bien, qui est la fin de Terre des hommes de Saint-Exupéry, et qui se demande qu'est-ce qui différencie un enfant en bas âge qu'il voit dans un train en Pologne, qu'est-ce qui différencie cet enfant en bas âge de Mozart au même âge. Et je vous passe les détails, mais en substance, il dit de manière un peu emphatique comme ça que la différence, c'est que cet enfant dans le train polonais, la vie va l'emboutir. Et il prend cette image, il dit ce qui me fait mal dans cet enfant polonais, c'est tous ces Mozart assassinés. En fait. Qui est un texte assez fort comme ça. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas capables de résilience, si on prend un truc psycho un peu tendance aujourd'hui, ou ceux qui n'ont pas été sensibilisés à la créativité ou qui n'ont pas été poussés, encadrés. Puis évidemment, il y a malheureusement plein de situations où... Bon, c'est compliqué, quoi. Donc ça, je pense, ça c'est le vrai problème social. C'est-à-dire comment on fait pour développer, si tant est même que les sociétés démocratiques peuvent les absorber, hein, comment on fait pour absorber des gens créatifs? Est-ce que c'est le but, d'ailleurs, en gros? Mais c'est trop de gens créatifs, c'est bien compliqué. Donc techniquement, on va plutôt construire des robots, hein, ce Mozart assassiné, que des Mozart. Parce que la société, il faut des forces vives, quoi. Franchement, pas déconner. Les experts comptables dans les entreprises, c'est pas qu'ils commencent à se dire « alors pas du tout ». Enfin, donc je pense que... Mais en tant qu'enseignant, j'espère en tout cas que la volonté des enseignants, c'est de développer la créativité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me paraîtrait assez logique. C'est pas que c'est des bons citoyens ou des mauvais citoyens, machin. C'est d'essayer d'être capable de développer la créativité d'un individu qui est un peu paumé comme tous les ados, et c'est pas trop, voilà. Et donc là, finalement, quand cet ado va sur ChatGPT, qui est avant même le buzz ChatGPT, il a compris un truc, c'est que ce qu'on lui demande, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas d'écrire une composition, je sais pas quoi. Il s'en fout. Ce que je peux assez bien comprendre, en soi. Bien sûr qu'il ne faut pas écouter les ados, ce n'est pas l'ado roi, mais de fait, ce qu'il dit, c'est « je m'en fous, j'ai un outil qui est pratique, qui va me pondre un texte, je vais mettre quelques synonymes, c'est bon, quoi. Puis mon prof, en plus, comme c'est du langage habituel, il va voir que du feu. Hein, et puis, quand je suis en classe, il faut que je me débrouille un peu comme je peux pour que mon texte fait sur table, il ne soit pas trop mauvais, mais comme c'est maximum 1h30, ça va. Ça ne sera jamais aussi long que ce qu'on me demande à la maison, donc je peux faire illusion, voilà. L'outil, il est bien utilisé, mais il révèle déjà quelque chose. Donc moi, je pense plutôt, contrairement à ce que vous dites, je ne pense pas qu'on cherche à mesurer notre médiocrité au sens étymologique, enfin, notre côté un peu moyen. Je ne pense pas à ça. Je pense qu'on utilise ces outils parce qu'il y a quelque chose... C'est un peu ce que je disais avant sur le téléphone. C'est parce qu'on n'a pas la main dans... Je crois qu'aujourd'hui, mais j'en sais rien, je n'ai pas d'argument réel, en fait, c'est une intuition, elle est sûrement fausse, mais c'est que... enfin, quelle est la motivation d'un étudiant aujourd'hui à être au gymnase? Réelle, profonde. quel est son entourage, comment est-ce qu'il développe sa créativité, comment les profs sont capables de développer la créativité de l'élève. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on y arrive, je ne dis pas pour vous, hein. Je dis en général, ce n'est pas donné. Est-ce qu'on va appliquer ce qu'on a vu à l'université parce que c'est rassurant, on sait, dans les séquences didactiques, tout est bon, ou est-ce qu'on a envie de leur faire découvrir des choses complètement barges? En même temps, si on fait ça, ben, on va se faire engueuler par le département ou par le directeur d'établissement parce qu'il y a quand même un programme. Et des... Vous voyez, c'est quand même le système. De toute façon, le système n'est déjà pas créatif, donc c'est compliqué de créer du créatif, sauf quelques enseignants et quelques individus du système. Donc je crois que l'IA n'est que l'image, en fait, de notre propre médiocrité au sens de la moyenne. Et c'est bien parce que ces textes sont un peu pénibles et pas intéressants, machin, qu'on devrait presque les utiliser pour dire, ouais, on peut faire mieux, quoi. Mais faire mieux, c'est tomber dans la créativité. Et ça, soudainement, c'est plus compliqué à enseigner. Et évidemment, je n'ai pas le mode d'emploi. Mais c'est là où la science-fiction devient intéressante, c'est que, pour quand même un peu recoller au truc, c'est que quand on travaille sur la science-fiction, on se rend compte que tous ces motifs technologiques ou scientifiques ne sont jamais autre chose que des dialogues possibles avec nous. Qu'est-ce que ChatGPT nous dit de nous? Pas que la plupart de nos phrases sont standardisées, c'est le cas. Mais nous dit de nous que ça, c'est ce qu'on attend d'un être humain. Donc c'est une sorte de bon faire-valoir, en fait. Pour dire, bah non, en fait, non, on n'a pas envie que vos textes soient aussi merdiques que ça. Alors peut-être faisons autre chose que des textes. Parce que peut-être qu'il y a d'autres trucs marrants. Allons faire comme à la fin de Fahrenheit, vous allez avec vos livres dans les forêts, puis vous récitez vos livres, hein, le langage c'est comme fait pour être parlé, puis vous parlez dans les forêts, puis vous dites, ah bah toi, t'es Socrate, toi, t'es Flaubert, et puis on se laisse porter par la voix, comme ça, puis on voit ce qui se passe, tiens, c'est marrant, machin. Mais personne ne fait ça, quoi. Enfin, on s'entend, peut-être que quelqu'un fait ça, mais bon. Ils aimeraient sûrement beaucoup plus la littérature ça que de trouver les synecdoques. Donc je crois que c'est ce va-et-vient. Et quand moi je lis des textes de science-fiction, ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez, si je lis du post-apocalyptique, c'est monde détruit. Je vais voir avec mes étudiants, je dis, mais comment ce monde détruit nous montre que notre monde est déjà détruit? C'est juste que quand je suis dans cette salle, je n'ai pas l'impression que le monde est détruit. Mais en fait, intellectuellement, je sais qu'il est déjà détruit. On n'arrête pas de nous dire que c'est déjà trop tard. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus rien que ce n'est pas détruit. On peut rester, si je prends toujours des exemples un peu à la con, mais on peut rester en couple avec quelqu'un alors qu'il n'y a plus d'amour. Par confort, c'est déjà détruit, mais bon, personne ne le voit. Mais on le sait. Le monde qui est là, il est déjà foutu. On voit bien les étés qu'on a, on voit bien les problématiques. Tout le monde s'alerte, le GIEC, tout le monde s'alerte à mort. Le monde est déjà, on est déjà des survivants. Donc quand je me plonge dans un récit post-apocalyptique, là, j'adopte non pas la position ou la vie de quelqu'un après une catastrophe de notre monde, mais j'adopte ma vie à moi aujourd'hui. Comment je crée le lien social dans un monde qui est déjà détruit? Voilà. Alors que je suis tout seul. Et on se rend bien compte qu'on est assez tout seul, en fait. Donc comment je crée le lien social? Ces romans ne nous parlent pas de l'après-catastrophe. Ils disent il y a déjà la catastrophe. Et donc maintenant, je fais comment pour créer un lien social? Ou de quoi je parle? Vous voyez, ça, c'est le roman La Route pour les gens qui enseigneraient la littérature anglaise. Bon, on peut le faire en français, hein, par si vous travaillez sur le style. Dans La Route de McCarthy, le monde est intégralement détruit. Et la question, c'est de quoi vous parlez dans un monde détruit? Évidemment, bah, le problème, c'est que de rien. Parce que si le monde est uniformément détruit, le langage est basé sur les oppositions. Donc, vous allez parler de rien. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle alors qu'on n'arrête pas de nous dire le monde est détruit? C'est foutu. Qu'est-ce qu'on va dire? Bah, quand le monde se casse la gueule, y a un très beau livre qui s'appelle « Narcisse ou le mal du siècle », bah, on se replie sur le seul truc dont on est sûr, soi. Que nous, ça va. On se dit, nous, on est là. Quoi. C'est pour ça qu'on entend des espèces de contre-courants politiques qui disent qu'il faut remettre des récits désirables, des futurs désirables. Ce qui n'est pas tout faux, en fait. Parce que, hein, remettre du désir dans le fait de vivre. Mais quand vous dites « tout est foutu tout le temps », moi, je me rappelle d'une conférence à Genève de cet écrivain qui s'appelle Boualem Sansal. Oui, cet écrivain algérien qui avait écrit un livre qui s'appelle 2084, qui était venu en conférence avec des gens du cycle ou du collège. Je sais plus. Et il leur disait, de toute façon, c'est foutu, tout ça. Moi, j'étais en plus modérateur de la Talente, je disais, ça risque de partir en cacahuète. Et donc, les types avaient préparé, ils avaient lu le roman, qui est en plus méga chiant, et pas du tout convaincant, mais bon, un roman à thèse, typique. Mais comme l'auteur est connu, on n'a pas dit que c'est un roman à thèse, mais c'est un roman à thèse. Et il dit à des jeunes de 16 ans, votre monde, c'est de la merde. C'était mieux mon monde à moi. Et moi, je tu peux pas dire ça. Déjà, ton monde à toi, il a créé ce monde-là. Donc, keep cool. Hein. En termes de partage de responsabilité, je pense qu'il faut peut-être un peu prendre plus sur toi. Et puis, d'autre part, tu peux pas dire ça à des jeunes. Même si le monde, il est foutu, c'est bien ce que nous dit Camus. Même si le monde, il est foutu, ben, le fait d'injecter de l'espoir, c'est créer du lien. Voilà. De toute façon, le monde, il est foutu, on va crever. Donc, apprendre à créer du récit, apprendre à créer de l'espoir, sans tomber dans l'illusion, mais hein, apprendre à machin, bah, ça évite le repli sur soi. Donc, les mondes post-apo, ils permettent d'un coup de réfléchir à plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la catastrophe climatique. Rien. Par contre, l'omniprésence de discours sur la catastrophe climatique dans le champ social aujourd'hui, ça ne va pas aider des jeunes générations à avoir l'espoir dans l'avenir. Ça, c'est sûr. S'il y a bien un truc qu'on peut dire à 100%, c'est que ça va plutôt leur casser le moral. Et il y a eu pas mal d'études là, qui sont sorties après post-Covid pour voir comment les jeunes ont extrêmement mal vécu. Il n'y a plus de lien social. Donc d'un coup, vous êtes dans une sorte d'anxiété profonde comme ça. Les parents savent, si c'était deux, pour ceux qui étaient deux, ils n'étaient pas tout seuls, mais suivant les jeunes, c'était un peu plus compliqué. Et donc la science-fiction, elle va faire ça. Si je lis des ouvrages sur l'IA, par exemple, bah, j'ai vite me rendre compte que l'IA dans la science-fiction, c'est pas du tout l'IA ChatGPT. C'est le substitut dématérialisé qui me permet de pas être tout seul. La meilleure image de ça, c'est dans ce film qui s'appelle Her. H-E-R. Non, si vous avez vu ce film, ça. C'est je suis tout seul, phase de divorce, vie un peu misérable, pas vraiment de potes et tout ça, dans un monde hyper aseptisé. C'est la première fois que San Francisco, Los Angeles est aussi aseptisé. Et le type tout seul chez lui, comme ça, un peu comme un loser, qui est, dont en plus le métier, c'est d'écrire des lettres d'amour pour d'autres. Ultra glauque. Et il dit, je vais le télécharger une IA, quoi. Mon assistant personnel. Puis évidemment, il tombe amoureux de l'IA. Bon, il faut se rappeler que l'IA, elle est incarnée par la voix de Scarlett Johansson, qu'on a tous voulu entendre un jour nous susurrer quelque chose à l'oreille. Ce qui veut dire, qui est d'ailleurs la même position que le spectateur. Le spectateur est la même position que le personnage. Le personnage entend que la voix de Scarlett Johansson et le spectateur n'entend que la voix de Scarlett Johansson. Que cette voix est un peu suave, romantique, femme enfant, enfin, il y a un côté un peu. Et donc, il tombe amoureux d'elle et est content. Ça. Et on se dit, mais mec, avec une voix comme ça, tu veux la voir, c'est pas tu. Bon, elle n'existe pas, c'est une IA. Et d'un coup, l'IA devient une image de contraste, c'est-à-dire qu'elle devient l'image de. C'est marrant comme on peut se satisfaire de l'être humain lorsque son corps a disparu. Mais quand on est sur WhatsApp, le corps a disparu. Puis on peut rester 3 heures à discuter. Il n'y a plus de corps. C'est l'inverse de la figure du robot. Donc l'IA dans la science-fiction, il y a plein d'utilisations, mais une des utilisations la plus souvent, la plus fréquente, c'est évidemment l'utilisation selon laquelle, bon, ça c'est une métaphore, que l'IA, c'est lorsqu'on relègue l'être humain à être, lorsqu'on relègue l'être humain à être quelqu'un qui génère de l'information. Point. C'est exactement comme ça qu'est construite toute l'architecture réseau aujourd'hui. C'est vraiment, vous le dites, c'est que vous balancez de la data sur vous, parce que c'est ça qu'on peut vendre. C'est ce que dit déjà Deleuze. Mais voilà, on balance de la data. Donc en fait, plus on a de temps là-dessus, plus on envoie de la data. Donc nous, on ne sait pas ce qu'on a vécu, mais on envoie de la donnée. Cette donnée, ça optimise notre profil consommateur. Voilà. Et ça, c'est super. Pour les groupes qui fonctionnent comme ça, c'est super. Bon, d'ailleurs, ils sont tellement super que ça fait partie des groupes les plus riches sur Terre. Et nous, on accepte ça parce que derrière, on est tout seul, quoi. Donc, on espère quand même trouver le livre qui nous manque, l'individu qui va nous rendre heureux, enfin, ce que vous voulez, quoi. Et dans la science-fiction, on dit non, c'est justement, on va chercher l'IA quand on est tout seul. Et donc, si je décrypte la métaphore, si je vois quelqu'un sur son téléphone dans le train avec du monde autour de lui, ce qu'il me donne comme message, c'est « je suis tout seul ». D'abord. Et je projette là-dedans plein d'autres trucs, quoi. Ah, on s'entend. Ça permet de créer un dialogue avec l'individu. Ça ne veut pas dire que tout le monde est tout seul derrière son téléphone. C'est pas ça. Ça veut dire que ça peut être un objet refuge. Hein, ce que Damasio appelle le technococon. C'est un objet refuge, en plus que je maîtrise intégralement. Puisque tout est, enfin, en tout cas, en apparence. Puisque toutes les données, ça, je ne les maîtrise pas. Mais je maîtrise les applications qui m'écrit, qui m'appellent, machin. Là, vous avez un truc qui est génial comme point d'ancrage. Et qui, en plus, est esthétisé. Dans la science-fiction. Et ça marche pour à peu près tous les romans de science-fiction, sur l'IA, les robots, les voyages dans le temps, enfin, tout ce que vous voulez. Après, évidemment, le problème, c'est comme on n'a pas étudié ça souvent dans les hautes études, on n'a pas de référentiel et on ne sait pas quels sont les bons romans. Donc, on a tendance à prendre des trucs qu'on connaît de tête. Asimov, qui écrit hyper mal, c'est les années 50, ça a tellement mal vieilli. Donc on dit, bah ça, voilà, je lis, je dis, ah, je peux pas faire ça. Puis les romanciers un peu plus intéressants, Léon Henry, tout ça, on les connaît pas. Donc on se dit, bah non, je veux pas. Alors on prend Barjavel, parce que tout le monde a fait une fois la nuit des temps, et puis ou Ravage, et puis c'est les années 40, quoi. Puis c'est mal foutu. Donc il y a aussi un autre problème qu'il y a là-dessus. Mais je pense que c'est un genre comme tous les autres genres qui permettent un dialogue assez fécond avec les étudiants et qui permettent de pouvoir diversifier leur approche de la littérature. Parce que ce que disait Marc Angenot, qui est un théoricien de la littérature belge, mais qui enseigne à Montréal, qui disait « La littérature est le seul champ des sciences humaines où, a priori, on exclut 95% de la production sans avoir à le justifier. » Et ça, en tant que prof de français, on doit y penser. Parce que les 5% qu'on garde, c'est ce qu'on a appris. C'est aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire ? Par principe, 95%, l'heroic fantasy, loin. La fantasy, loin. Le fantastique, si ce n'est pas le 19e parce qu'on l'a appris, loin. La beatlit, loin. La science-fiction, loin. Ça, c'est une bonne partie de la production. Et on garde 5%. Et on n'a même pas besoin de justifier à quiconque pourquoi on enlève ces 5%. C'est super. C'est une sorte d'immunité diplomatique incroyable. Moi, je rêverais d'avoir des trucs où on dit aux enseignants, quel que soit leur niveau, pourquoi vous faites ça au niveau pédagogique avec vos élèves, vraiment. Qu'est-ce que ce roman enseigne à vos élèves? Pas ce que vous avez appris vous, mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Et qu'est-ce que vos élèves leur vous disent? Et ça, je trouvais cool. Pour trouver, non pas seulement satisfaire l'élève, parce que ce n'est pas le but non plus, c'est aussi le but de lui faire découvrir autre chose, donc je suis évidemment pleinement pour l'éducation classique, mais pas que. Franchement, à part alors, c'est Todorov qui disait, faire ça, c'est s'assurer du dégoût de la littérature pour la plupart des étudiants. Puis regardez le nombre de personnes qui ont littérature dans les universités. C'est de moins en moins important.
Il y a plein, encore énormément de choses qu'on a à peine touché du bout c'est du vrai. Doigt, mais j'ai cru comprendre que tu avais été aussi attendu après.
J'ai une autre conférence
et que,
à 4h30.
Exactement. Il faut qu'on conclue gentiment. Peut-être positivement, parce que tu citais Her aussi à la fin du film, ben, il finit par lâcher son
bon,
IA.
C'est les IA qui partent.
Ouais, c'est les IA qui partent, mais ce qui lui permet aussi de retrouver le contact humain et puis se rapprocher de ses proches. Voilà.
Donc, c'est un très bon film. Ça, c'est un très très bon film pour aborder la science-fiction en classe, même si on est prof de littérature, par exemple.
Absolument.
Enfin, on peut très bien travailler sur le récit, on n'est pas obligé de travailler que sur l'objet littérature.
Et je voulais te demander, on n'a pas eu le temps, mais voilà, quelques œuvres à recommander pour aller au-delà d'Asimov, mais ça, tu peux peut-être me mettre par écrit, puis je le transmettrai aux participants, comme ça.
Bah, un auteur qui marche bien, de toute façon, mais qui n'est pas facile, c'est Damasio, ça marche très très bien pour les jeunes. La Horde du Contrevent, qui est sûrement... Bon, c'est 700 pages, mais c'est facile à lire.
C'est 700 pages, puis
les sons premières, elles sont... C'est hardcore, hein. C'est hardcore, ouais. Mais ce que je dis, c'est que c'est... Bah là, je sais que le Gymnase d'Yverdon a pris comme livre de bac Damasio, enfin la Horde. D'ailleurs, c'est à eux que je dois aller parler maintenant. Mais il a des nouvelles, dans aucun souvenir assez solide, quelques-unes qui sont relativement faciles. Il y a Léon Henry, qui est un romancier incroyable, qui a écrit un roman qui s'appelle L'Autre Monde, qui n'a rien à voir avec l'IA, mais qui est magnifique, qui permet de travailler l'ellipse, pour ceux qui veulent travailler sur l'ellipse narrative. Mais surtout qu'une histoire extrêmement belle sur la question de la migration. C'est-à-dire l'ellipse narrative permet de mettre est mis en parallèle avec l'ellipse qu'on fait des migrants. Hein, on les zappe, en fait. C'est très beau. Et c'est un texte un peu utopique, science-fiction, comme ça, c'est un peu étrange. Mais après... Le problème des œuvres, c'est que moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas lire des œuvres de langue étrangère en français si on ne travaille pas sur le style. Je ne vois pas pourquoi les profs de français se réduisent d'une production incroyable. Fahrenheit 451, c'est hallucinant. Alors oui, c'est un livre anglophone, mais pourquoi est-ce qu'on doit... Enfin, on peut le lire en français, il y a une belle traduction qui existe.
Parce qu'ils le font en anglais, justement.
Mais c'est pas grave, ils peuvent le faire dans les deux, quoi. Ou faire un cours commun. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça qu'avant je parlais du système. C'est qu'en fait, à un moment donné, Fahrenheit, c'est un texte qui fait l'apologie des forces de la littérature. Il s'avère que l'auteur l'a écrit en anglais. C'est un fait. Mais il s'avère aussi qu'il y a une pièce de théâtre qui était à Genève il n'y a pas longtemps, des Arpenteurs, qui était l'adaptation de Fahrenheit, qui est magnifique. Et ça fait partie d'un des grands textes de science-fiction. Lire que du français, c'est se couper 95% de la production sans avoir à le légitimer, si ce n'est en accusant nos collègues. Ce que je suis d'accord avec vous, parce que j'ai déjà entendu ça. Mais on devrait se dire, écoutez, on va se mettre tous d'accord, là. Hein, vous, prof d'anglais, vous pouvez prendre du français si vous voulez. Ce que vous n'allez pas faire. Puis moi, si je veux prendre de l'anglais, vous foutez-moi la paix. Hein, tout va bien se passer. Promis, je ne travaille pas sur le style. Mais je peux te faire une liste. Ouais. Après, c'est quasi impossible. Il y a tellement... Mais c'est clair que Damasio, ça marche. Léon Henry, ça marche. Dans le contemporain, Andreas Eschbach, il écrit en allemand, mais il supervise la traduction française, peut-être que ça fait, hein, qui écrit des très très beaux romans, comme Le dernier de son espèce, ou bien Des milliards de tapis de cheveux, un roman sur le pouvoir, ou sur notre fascination pour les formes de fiction super-héroïques, qui est un peu Madame Bovary d'aujourd'hui, si on veut bien. Il y a plein d'autres textes qui valent la peine, que je pourrais faire une liste, Nos romanciens, qui est magnifique, de Gibson. Ouais, je peux faire ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement qu'après, c'est plutôt, tiens, sur quel point j'ai envie de dialoguer avec mes élèves. Si je prends Philippe Cadix, ça va être compliqué. C'est sur les niveaux de réalité, ça va être compliqué. Mais si je prends du contemporain, ça sera forcément en lien avec les univers numériques. Donc forcément que j'aurai des trucs à dire sur un univers qu'ils connaissent, eux, puisqu'ils passent beaucoup de temps dans le numérique, en fait. Et en plus, dans la science-fiction, c'est un genre qui est pratique parce qu'il y a très peu de choses, il y a très peu d'outils qu'on a besoin de mobiliser pour comprendre. Enfin, on peut en faire plus. Il suffit de comprendre ce que c'est qu'une conjecture, donc une extrapolation, et puis il suffit de savoir ce que c'est qu'une métaphore. Et avec ça, on s'éclate déjà pas mal. Et après, on peut faire du schéma actantiel, tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, ça suffit, c'est déjà pas mal. Et on peut déjà ouvrir beaucoup de textes avec ça, donc c'est pas compliqué. Et là, j'ai écrit un truc justement dans une revue de Genève qui s'appelle Réseau. Non, pas du tout. Merde. Bon, je sais plus. Mais c'est une revue qui est dédiée à la pédagogie, donc c'est pour les enseignants. J'ai co-écrit un article avec un type qui était assez cool sur comment faire de la science-fiction une branche enseignable au secondaire 2. Et c'était intéressant de réfléchir à quels étaient les outils, parce qu'il fallait quand même des outils pour le plan d'études. Et en même temps, bah, quelles étaient les vertus pédagogiques du genre, en fait. Donc c'était assez chouette de faire ça avec quelqu'un qui est plutôt dans le système de l'enseignement genevois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça offre une image du miroir intéressante.
Super, mais je propose qu'on s'arrête là, sinon tu n'arriveras jamais à Yverdon avant la tombée de la nuit. Merci beaucoup Marc pour ton intervention et ta présence parmi nous aussi.
Merci à vous.